Bonsoir, bonsoir à tous, ou à toutes et à tous. Salut Cathy, salut Cat Lady, salut Romain, salut Monde Inconnu, salut Souverainix, salut Point de Suspension, salut Midou, salut Bart. J'espère que vous allez bien, et j'espère que vous m'entendez. Aussi, si vous pouvez mettre un petit pouce pour me dire que vous m'entendez, ça serait super sympa. Ah, j'ai droit à des cœurs. Merci, merci, merci beaucoup. Ah, quelle semaine encore. Ah là là, bonsoir ma beauté. Merci Cat Lady, mais Cat Lady, ne dis pas trop que je suis belle, parce que je suis censée être moche, s'il te plaît. Bonsoir Joe. Alors, ce soir, le space s'appelle Captation du pouvoir à durée indéterminée, n'est-ce pas? Salut LOL. Alors, je vais faire un petit disclaimer parce que je vous promets, je vais pas le faire chaque semaine, mais comme je sais que mes haters viendront écouter mon space ou seront en anonyme pour après s'abreuver, vous êtes hyper gentils, hyper bienveillants avec moi, ceux qui sont dans ma commu, comme je dis. Vous postez mon space dans d'autres spaces pour dire « Ah oui, mais Lilou l'a dit » ou « Allez voir le space Lilou ». Je vous jure, ne le faites pas. Parce que je me prends une vague de haine gratos, bon, je me moque par ailleurs, hein. Mais je suis toujours un peu harcelée, même beaucoup, les mêmes personnes, les mêmes propos diffamants, c'est pas que ça me touche en fait, c'est juste que j'ai envie de vous dire à vous qui allez m'écouter en différé, lâchez-moi en fait, ouais lâchez-moi. Allez voir ailleurs si j'y suis, et puis si je suis pas là-bas, continue à chercher. Et je lis des choses hallucinantes de la part de personnes qui me suivent, en plus, c'est fou, hein. Je veux pas m'associer avec cette personne. Enfin, à quelle heure vous vous êtes dit que je m'intéressais à vos matricules? Je ne m'intéresse pas à vous, from day one. Et depuis le premier jour, j'ai ma propre considération dans l'espace de Myriam, l'espace où j'ai commencé. D'accord? Je lui dois ça. La haine qui a suivi ensuite, le doxing dont j'ai été la victime, des personnes qui ne donnent pas leur identité en ligne, mais qui sont allées donner mon identité complète, l'identité de mon mari, là où il travaillait, qui ont révélé que j'avais des jumeaux. Alors que j'avais fait souhait de ne pas dire, j'ai juste dit que j'étais mariée pour m'éviter justement ce dont on m'accuse, à savoir murmurer à l'oreille des hommes, n'est-ce pas? J'ai dit que j'étais mariée, puisqu'on est en 2000, à l'époque 2022-2023, à l'époque, non c'est 2022, puisque ma mère est morte en 2022, et c'est le moment où j'ai parlé un peu dans l'espace. Parce que j'étais forcément déstabilisée, je pense, et que j'ai dû absolument baisser ma garde quelque part. Et je vous en parle à cœur ouvert parce que je pense que c'est important puisqu'on est en 2025 et ces gens continuent. À la fois des gens qui veulent me voir disparaître en tant que, entre guillemets, spaceuse, et à la fois d'autres gens qui continuent à me diffamer. Lorsque vous faites des spaces sur des gens, vous commettez des actes illégaux. Les autres gens qui viennent écouter, c'est de leur propre fait. Il y a les personnes qui perpétuent des choses illégales à mon encontre. Mais il y a ceux qui viennent écouter et qui sont là parce qu'ils ont envie d'être là en fait et qui sont contents. Hier, j'ai fait le space avec Démocratie Directe, donc Stéphane, avec d'autres personnes expertes en IA, il est sur mon feed. C'était hyper intéressant. Honnêtement, c'est hyper intéressant. Mais vous savez, c'est comme un peu une espèce de lutte des classes pour moi. C'est-à-dire que on se met au niveau des gens. Alors attention, vous pouvez dire que je suis prétentieuse ou tout ce que vous voulez, mais il se trouve en effet que j'ai un certain nombre d'études et pas n'importe où, d'années d'études. On se met au niveau des gens, on est là, on est open, on discute, on fait, et après on s'en prend plein la gueule par des gens auxquels on n'a jamais rien dit. Je pourrais, moi, avec le cerveau que j'ai, excusez-moi du peu, faire des kyriels et des kyriels de preuves en ligne. À quel moment mon travail a été volé? À quel moment on a parlé de moi? À quel moment on m'a insulté? Je vous raconte pas le nombre de DM que j'ai de gens qui viennent dénoncer. Même quand je leur dis stop. D'accord? Elle n'est pas juriste, elle n'est pas avocate, elle sort d'un asile. C'est pour ça que le barreau de Paris m'écrit, en fait. Et même là, je suis pas là pour me justifier, en fait, de qui je suis. Je suis juste là pour expliquer qu'à un moment, quand il y a des personnes comme ça qui, vous, de ma commune, qui allaient mettre mon space en disant, oh, Lizou, en a parlé et tout, c'est super sympa. Mais après, vous, vous en prenez plein la tête. Moi, j'en prends plein la tête. Des gens que je connais absolument pas et dont je me fous royal. Dire, oh, je lui reconnais une capacité d'analyse juridique. Mais est-ce qu'on rêve? Qui êtes-vous? Je ne m'intéresse pas à vous et à votre niveau intellectuel, mais j'aurais à en dire. Je vous dis pas que je suis une superstar de la vraie vie, mais vous ne savez pas qui je suis. C'est ça, c'est bien ça votre problème. Et vous ne saurez pas. Et moi, je ne cherche pas à savoir qui vous êtes, je m'en contre-moque. Mais force est de constater, comme ils disent les Américains, I'm a threat. Je suis une menace pour vous. Avec mes pauvres 3700 followers, n'est-ce pas? Le travail que je fournis en ligne, il me semble pas être une personne méchante ni une personne prétentieuse, et je vais pas me lancer dans des joutes verbales avec vous. Juste, je vous dis, lâchez-moi, en fait. Laissez-moi tranquille. Et croyez bien qu'il y a toujours deux versions de l'histoire. Et je la donnerai pas, l'autre version de l'histoire. Je l'ai donnée à quelques personnes avec lesquelles j'ai des liens, voilà. Je donnerai pas leur nom aussi parce que je veux pas qu'ils soient là-dedans. Mais juste, c'est pour vous aussi que je vous le dis, restez en dehors de ces choses-là. Ne vous inquiétez pas pour moi. De toute façon, soyons clairs. Et je vais être hyper claire, comme je sais l'être aussi. Les personnes qui sont allées en dehors de la ligne juridique avec moi, j'ai entamé des procédures. Point. Les personnes qui écoutent, assistent et ne disent rien, vous avez envie aussi de savoir. Vous avez envie d'être dans le trash, ça vous intéresse. Ça, c'est pour la partie compétence juridique, parce qu'il faut toujours venir dire que je ne sais rien. Bien grand vous fasse. L'autre part, la part féminine, la part « je suis une femme, je suis une pute, je suis tout ce que vous voulez », ça ne vous regarde pas. Si en tant que femme, vous avez besoin de rabaisser les autres femmes, vous avez un problème vous-même avec votre féminité et votre existence en tant que femme. Ça n'est pas mon problème. Et les hommes, j'en parle même pas, parce que c'est clair et net, un homme qui parle comme ça, c'est un homme qui a envie de savoir. Donc je m'excuse d'être trop sexy pour que vous puissiez pas vous retenir. Mais il y a un moment, on est en France, et vous allez arrêter vos conneries. Parce que c'est pas après vous, bons français que vous êtes pour la plupart, qui venez me dire par A plus B, par DM et par mail comment vous allez me violer, qui venez me chercher les maghrébins, ou les noirs, ou les bougnoules, comme j'ai entendu aujourd'hui dans un space, pour dire que eux veulent amener la charia en France et enfermer les femmes. Parce que, y a pas un arabe, y a pas un noir, sur ce réseau social, qui m'a fait ce que me font les autres. Soyons bien clairs. Les mecs que beaucoup d'entre vous connaissez, qui me décrivent comment ils vont me prendre à quatre pattes et me défoncer, je suis désolée, je suis trash, mais je vous le dis la vérité, c'est pas des arabes, c'est pas des noirs. Alors j'ai eu mon lot aussi, avec la communauté musulmane et avec la communauté juive. La communauté juive sioniste, c'est parce que j'ai parlé de Gaza et qu'il ne faut pas dire qu'on a de la peine pour les Gazaouis. J'en profite pour le redire. Ce qui n'a rien à voir avec Israël. Et du côté musulman, oui, il y a des histoires. Mais c'est pas les histoires que vous pensez. Et s'il y a eu un jour des problèmes avec des hommes musulmans sur ce réseau, c'est une histoire entre un homme et une femme. Je dirai pas laquelle. Mais aujourd'hui, je suis obligée de faire ce disclaimer pour dire arrêtez de me harceler. Continuez à me cracher dessus, il n'y a pas de souci, mais lâchez-moi. Lâchez-moi. Et messieurs, pour l'instant, j'ai rien fait. Mais je vous le dis. Le prochain qui m'envoie par le menu la manière dont il va me violer, je donne pas cher de sa peau. Voilà. Parce que vous, bande d'ignards, quand vous faites les malins en meute de stupides que vous êtes, parce que vous aimez bien être tous râlés pas crête ensemble, parce qu'il n'y en a pas un qui lève la tête au-dessus de l'autre, c'est bien on est ensemble, ah oui, vous ne faites rien, mais vous êtes tous ensemble dans la même merde, vous vous ressemblez tous, ça vous plaît, vous aimez être entre médiocres. Vous n'allez pas vous en prendre aux hommes, vous venez vous en prendre aux femmes. Elle, il faut qu'elle ferme sa gueule. Je suis obligée d'être vulgaire parce que je me mets à votre niveau. Mais dans la rue, je vous donne pas l'heure. Et je voudrais bien qu'un jour vos femmes, vos filles, vos nièces, vos mères tombent sur un homme comme vous. Voilà. Donc après, il y a la psychiatrie, oui, en effet, oui. Il y a la psychiatrie. Et donc quand vous parlez comme ça, comme des imbéciles que vous êtes en space, en meute de stupides, ben vous révélez des tarés, d'accord ? Qui sont derrière leurs écrans, qui ont que ça à faire. Voilà. Et vous m'obligez à faire des disclaimers dans des spaces que je prépare, auxquels je réfléchis, parce que j'ai autre chose à faire que de penser à vous. Et vous, bande d'ignards que vous êtes, quand vous passez votre temps à venir dans les spaces pour raconter n'importe quoi, parce que vous ne savez pas de quoi vous parlez, vous oubliez la merde dans laquelle on est, nous tous, dans ce pays et en Europe. Et qu'il va bien falloir qu'on se serre les coudes. Mais moi, je ne serrerai pas les vôtres. Encore une fois, je veux de mal à personne. Mais oubliez-moi. Oubliez-moi. Faites vos spaces. Prouvez à tout le monde que vous êtes au top. Prouvez à tout le monde que vous augmentez sans tricher. Que personne n'est dans des groupes de DM à se renvoyer les mails ou dans des groupes Telegram. Prouvez que vous savez faire autre chose que retweeter des choses. Prouvez. Succès pour vous, je vous le souhaite. Mais laissez-moi tranquille. Moi, mon anglais, mon IA, mon latex, mon cul, mon cerveau, ma religion, tout ce que j'ai envie de faire dans mon pays. Parce que c'est ce que m'offre mon pays. Voilà. J'en termine par là. C'est la dernière fois que je fais ce disclaimer-là. Mais je souhaite à aucune femme, même si j'ai mes torts aussi, hein. J'ai certainement une grande gueule, un sale caractère, une manière de parler qui plaît pas. On peut pas plaire à tout le monde, il n'y a pas de problème. Mais je crache pas sur les autres et je m'occupe pas de ce qu'ils font. Et je fais pas de space sur les autres. Et toutes les personnes qui m'ont doxé, en allant dire que j'avais des enfants, oui, je voulais protéger mes enfants, oui, des réseaux sociaux. En allant dire que je suis une menteuse, grand bien vous fasse. Mais moi, j'ai pas dévoilé l'identité des autres personnes. Et je vous dis pas si je la connais ou pas. Il y a un moment, ça suffit le harcèlement, quoi. Lâchez-moi. Voilà, bref, excusez-moi pour ceux qui viennent d'arriver en cours. J'étais obligée de faire encore un énième disclaimer parce qu'à chaque fois qu'il y a l'un d'entre vous qui a la gentillesse de repointer un space ou de dire que je suis bien ou si c'est l'intelligence artificielle de X qui le dit, non, il faut dire que non, je suis nulle, que je sais de la merde ce que je fais, que j'ai pas de connaissances, que je connais rien. Très bien. Bravo, parfait. Lâchez-moi. Donc ce soir, ce dont je voulais parler, c'était, alors j'ai appelé volontairement ce space, la captation du pouvoir à durée indéterminée. Vous le savez, je ne fais que des spaces qui ont rapport avec le droit, puisque c'est ma compétence, avec l'IA, puisque oui, forcément, c'est un domaine qui m'intéresse, et c'est devenu aussi une compétence. Et à ce propos, formez-vous, apprenez, cherchez à augmenter vos compétences, au lieu de jalouser les autres. Bref, donc, j'avais envie de faire ce sujet-là, puisque je vois des textes passer, je vois des choses arriver. Et en fait, si vous voulez, j'ai l'impression qu'on est dans le même marasme, dans la même suite, hein, on avance. C'est comme si on était dans la boue, vous savez, avec la roue dans la boue, et que la roue n'avance pas. On est là-dedans. Et donc, ce soir, je voulais parler de ça, et certains d'entre vous m'ont demandé aussi de parler du projet de loi immigration, de la loi de programmation militaire. Et c'était important pour moi, comme depuis 3 semaines, de faire des spaces qui en fait un peu reviennent, vous savez, sur... ça revient pas sur des raisonnements que j'ai pu avoir, mais ça me remet moi-même en cause dans l'instrumentalisation qui est fait, qu'on fait du droit. Et j'ai envie d'en parler avec vous. Et c'est mon deuxième disclaimer. Je publierai un thread là-dessus ce week-end par rapport au Covid, à la pandémie, n'est-ce pas ? Et à l'anniversaire des 5 ans, je l'ai toujours expliqué, je suis des dossiers qui sont aux tribunaux administratifs pour voir l'évolution de la jurisprudence vis-à-vis de la suspension des personnels soignants. Et donc j'ai fait une revue des dernières jurisprudences, enfin en tout cas de toutes les jurisprudences intéressantes intervenues sur les 5 dernières années. Lorsque j'ai commencé à prendre la parole dans l'espace de Myriam, la première thématique dont j'ai parlé, c'était de la suspension des soignants suspendus, pléonasme. Parce que, pour moi, la suspension, c'était une mesure conservatoire dans le cadre du droit de la fonction publique, contractuelle ou titulaire. Voilà. Puisque c'était souvent des personnels hospitaliers, donc les FPH, qui avaient cette obligation et qui étaient suspendus. Bon. Il y avait aussi les paramédicaux, les libéraux qui appartenaient à la loi. Et donc, je publierai ce thread, je pense, peut-être dimanche plutôt, puisque le jeudi, le samedi, je suis plus dans ma communauté de création. Je suis hyper étonnée de la part du juge administratif et de certains TA qui font jurisprudence, puisque je l'ai souvent expliqué dans mes spaces pour ceux qui sont nouveaux ici, les tribunaux administratifs, donc l'ordonnancement juridique administratif, tribunal administratif, cour administrative d'appel, conseil d'État, avec différentes, procédures en fonction de l'appel, vous pouvez être directement devant le conseil d'État. J'ai souvent expliqué qu'en fait, il y avait certains tribunaux administratifs qui donnaient le ton, en fait, de ce qu'allait faire le juge et de la jurisprudence à venir. Et donc, le constat, c'est lequel? Le constat, c'est qu'il n'y a pas eu de requalification de la suspension, c'est-à-dire un prononcé de l'illégalité de la suspension, comme je le pensais moi-même, à savoir, non, d'un point de vue statutaire, il s'agit d'une mesure conservatoire. En fait, les seuls personnels administratifs qui ont été sauvés dans les jurisprudences, ce sont ceux qui se sont mis en arrêt maladie, et dont on a pour la plupart, pas tous, mais c'est un dénominateur commun, c'est le seul dénominateur commun qu'on va avoir là-dessus. Ils ont donc eu leur suspension annulée parce que le juge a estimé que c'était le droit à avoir un arrêt maladie, qui est donc extrêmement fort chez nous, qui prenait le pas sur le reste. Ce qui, pour moi, est hyper choquant d'un point de vue du raisonnement juridique. Je n'ai pas vu les conclusions des différentes parties au procès, donc je ne sais pas quels ont été les argumentaires. Mais très personnellement, j'aurais été directement sur le faux ami, entre guillemets, de ce que je peux dire comme ça pour faire plus simple, en termes de suspension. Et le fait que le juge ne fasse pas ça, et que finalement, il ne prenne pas parti ni position sur quelque chose qui est socle dans notre droit, c'est extrêmement choquant et inquiétant. Donc en fait, ce qu'il a fait, c'est qu'il a fait un raisonnement là négatif en disant non, c'est plus important qu'il ait droit à son arrêt maladie, donc j'annule la suspension. Et vous savez aussi que la loi est toujours au Sénat et qu'elle n'est toujours pas annulée. Voilà, je voulais faire ce deuxième disclaimer puisque ça a été l'anniversaire, entre guillemets, bien malheureux des 5 ans, comme vous le savez. Et donc c'est très choquant de voir ça, et c'est très dur pour ces personnes qui ont perdu leur carrière, et ça fait partie d'un ensemble de mouvements institutionnels sur l'ordonnancement juridique et même d'un point de vue finalement de la loi, de la fabrication de la loi, où on a une espèce d'instrumentalisation juridique qui fait que on se sent un peu coincé. Si je peux m'exprimer ainsi. Et donc à chaque fois que je vous ai dit non, non, on est en démocratie, je ne change pas mon positionnement, parce que moi aussi j'ai un raisonnement à la négative. Quand on me dit il y a une menace russe, montrez-la moi. On est en guerre, montrez-moi. Parce que moi j'attends des documents hein, quand je dis montrez-moi. C'est-à-dire que on va me donner le doc, je dis n'importe quoi, le décret, la loi, tout ce que vous voulez. Tac, on est en guerre. C'est ça que j'attends. Si on me le donne pas, il y a pas. Voilà, c'est tout. Et alors à ce moment-là, je me pose la question en ce moment, notamment en termes juridiques, comment se fait-il, et ça me fait fulminer, hein, que des lois permettent à l'État de réquisitionner nos biens en temps de paix. Entendez bien ce que je vous dis, en temps de paix, c'est très important. J'avais fait un space sur la LPM, et j'avais émis l'hypothèse qu'il n'irait pas trop loin, mais là, on me fait sentir que l'hypothèse va s'avérer fausse. Donc, comment se fait-il que des textes organisent, donc là vous ne les voyez pas, c'est à bas bruit, la possibilité de vous, de nous mobiliser, de mobiliser la population civile? Comment est-ce possible que des décrets permettent déjà la suspension de certaines de nos libertés fondamentales, alors que personne ne vote quoi que ce soit? Donc ça avait déjà été le cas avec la pandémie, vous vous en souvenez, et là ça revient. Donc, à l'époque, oui, vous aviez entendu parler de l'état d'urgence sanitaire, mais est-ce que vous avez entendu parler de l'état d'urgence sécuritaire? Donc là, vous avez vu ce type d'expression, vous allez le entendre dans d'autres spaces après. Faites attention, parce que les mots sont importants, et faites attention dans vos communications. Bien sûr, vous allez avoir notre ami le Conseil de défense, mais vous allez avoir toute une nouvelle forme, en fait, de lexique. La résilience nationale. La continuité gouvernementale. Alors, je fais un disclaimer, c'est mon troisième de l'entrée. Je vous donne la parole une fois que j'ai fini mon introduction, même si je vous fais monter. Donc, merci de lever vos mains. Comme ça, vous aurez un ordre de passage. Donc, vous allez avoir ce lexique, résilience nationale, continuité gouvernementale et mobilisation générale. Et à ce moment-là, je me pose la question, puisque je vous donne Kyrielle de texte et Kyrielle de jurisprudence et Kyrielle de tout ce que vous voulez pour que vous alliez lire. Qui lit ces textes? Qui décrypte les termes? Et qui comprend ce que ça signifie réellement? Et pour les juristes, ou alors les personnes qui ont l'habitude de lire du droit, puisqu'il n'y a pas forcément que besoin, vous voyez, vous qui aimez dire que je me prends pour ce que je suis pas, il n'y a pas toujours besoin d'avoir un background d'études de droit pour comprendre un texte juridique. Il y a des personnes qui lisent extrêmement bien les décisions de justice, les textes, les décrets, les lois, enfin la constitution, il y en a plein sur ce space. Mais juridiquement, on y va, quoi. Donc ce que je voulais ce soir, c'est qu'on plonge dans les coulisses de notre droit, mixé avec l'actualité, remonter les articles, décortiquer, pas tous parce que c'est extrêmement long, mais en tout cas moi j'ai travaillé en avance, les décrets, et révéler aussi les lois qui ont été passées sous silence, voilà, et ce qui est pervers, puisque au final vous avez l'accès, mais vous n'y allez pas, parce qu'en réalité, la loi ne vous dit pas frontalement, vous vous souvenez du saut juridique que j'exprime à chaque fois, ce que fait la loi, c'est qu'on dit qu'elle prévoit en creux. Parce que tout simplement, lorsque vous avez défense, lorsque vous avez souveraineté, lorsque vous avez sécurité, il y a quoi derrière? Des mécanismes. Et si on passe en temps de guerre, les mécanismes, c'est forcément pour l'intérêt général du pays, la défense du pays, le contrôle, la privation, et parfois même la suspension de droit, comme ça a été pendant la pandémie. Et je peux vous dire que tout est déjà écrit, noir sur blanc. Alors vous allez me dire, ah oui, c'est les lois là qu'on a vues, quand on a vu les parlementaires. Non. Code de la défense, code de la sécurité intérieure, constitution. Et il y a aussi des textes qui sont carrément moins médiatisés, mais que vous connaissez. Alors l'ordonnance de 59, le plan Vigipirate. Hein, le plan Vigipirate, on s'est habitué à ça finalement. On s'est habitué à Vigipirate. On est à Paris par exemple, on sait qu'on est en niveau temps et temps. On s'est totalement habitué à ça. Ou tous les décrets aussi que vous avez qui sont relatifs à, quote unquote, on ouvre les guillemets, la continuité des institutions en cas de crise majeure. Qu'est-ce qu'une crise majeure? Et quand on me dit, oh c'est inquiétant, la communication ça fait peur, on s'en moque en fait. Moi ce que je vois, leur communication elle me passe au-dessus. J'attends les textes. Pourquoi? Parce que tout sera légal. Parfaitement légal. C'est pour ça que ce soir, ce que j'ai envie, c'est qu'on parle pouvoir, silence et résistance. Parce que oui, il va y avoir de la résistance. Je critique pas ceux qui s'appellent résistance ou qui font de la résistance ou qui pensent être des résistants. C'est pas mon problème, c'est pas mon souci. Encore une fois, les autres, je m'en moque. Tant que vous cherchez pas à me violer, ou à me tabasser, ou à me diffamer. Simplement, la résistance va exister. Et elle sera aussi légale et respectable. Voilà. Donc, dans la première partie, on va faire les fondements juridiques de la mobilisation générale, voilà, pour vraiment en discuter, parce que ça revient tout le temps et on pose des questions, est-ce que je vais être mobilisé, est-ce que mon fils va être mobilisé? Pour l'instant, il n'y a rien ni personne qui va être mobilisé, donc tout le monde reste cool, hein, tranquille, c'est pas là demain la veille. Hein. Je vais passer la parole à Souverainix avant de passer dans la première partie, à Walter aussi, mais d'abord je vais passer à Souverainix. Salut Souverainix.
Bonsoir, bonsoir à tous, bonsoir à toi Lilou. Je voulais te dire un truc, je sais pas si je te l'ai déjà dit il y a longtemps, et puis vous parlez de quelque chose au niveau d'espèces, entre autres, mais surtout les tiens. Il y a environ un an et demi, je pense, à peu près un an et demi, deux ans, j'ai fait effectivement l'erreur de te citer. Dans un space, je ne sais plus lequel, hein, c'était il y a tellement longtemps, mais au niveau juridique, je pensais que ce serait bien prise. Putain, j'ai fait vraiment une erreur. Je ne m'attendais pas du tout aux conséquences, aux résultats, un déchaînement. J'ai pas pigé tout de suite, hein. J'ai pas compris. Et puis j'ai quitté le space au bout de quelques minutes, et puis voilà quoi. Et donc je sais pas si je t'en avais parlé à l'époque ou pas. Plus jamais. Aujourd'hui, j'ai failli envoyer le lien vers le space à quelqu'un que je connais plutôt bien, avec qui j'ai échangé des heures et des heures et des heures et des heures, eh ben je l'ai pas fait. Voilà. Maintenant, tu sais que je m'intéresse à tout ce que tu dis au niveau juridique, même si c'est pas du tout mon domaine. Et j'avais commencé par réécouter certains spèces, mais alors quand ça dure 2h30 ou 3h, j'ai pas que ça à foutre, vraiment pas que ça à faire. J'ai d'autres projets. Donc, j'ai trouvé un outil qui me permet de les télécharger. J'ai trouvé des outils IA pour les nettoyer, c'est-à-dire en fonction du type de voix, ça me découpe le fichier son, en fait, que je télécharge auparavant, et ça me le découpe en morceaux. Donc, ça me sépare les voix. Il y a des outils professionnels pour ça, grand public également. Et puis ensuite, donc ça me le dépollue. Moi, j'appelle ça dépolluer. Et puis ensuite, j'ai d'autres outils IA qui me permettent de transformer la voix en texte écrit, que je lis, que je résume, etc. Et ensuite, avec ce résultat, eh ben, j'ai d'autres outils IA qui me permettent d'aller chercher les infos à ma place et de me résumer ou pas. Donc, ce qui me permet de gagner un temps fou, quoi, et d'avoir quelque chose de plus succinct, de propre, de compréhensible. Et c'est top. Donc voilà, j'ai trouvé ces outils-là, ce moyen-là. C'est preuve qu'on peut faire beaucoup de choses aujourd'hui, hein, avec ces outils. Voilà ce que je voulais dire.
Ouais, ben super, merci. Alors c'est vrai que je manque de temps pour tout mettre sur mon site, pour tout mettre sur YouTube, mais normalement après moi aussi je fais la même chose, je nettoie un peu l'espace, mais je laisse quand même des interventions qui me semblent intéressantes, souvent celle de Philippe, celle de Romain et d'autres, parce que voilà, mais je cut en fait beaucoup parce que c'est vrai que c'est très long parfois, et quoique avant, vous souvenez-vous, je faisais des spaces beaucoup plus longs. Disclaimer, merci d'aller dans mon sens. Oui, bah apparemment il faut pas donner mes spaces, il faut pas, donc voilà, donc ne préservez-vous du mal. Ne donnez pas mes spaces, vous inquiétez pas. Ceux qui veulent m'écouter, ça, vous me trouvez. Merci beaucoup, Souverainix. Alors, Walter, hi. Je vais vous donner la parole. J'ai vu votre commentaire, là. Vous n'êtes pas content. Vous parlez français, merci. J'y comprends rien aux anglicismes de managers parisiens qui souvent parlent en anglais dégueulasse. Alors, dites-moi en plus, ça m'intéresse.
Smiley, vous avez oublié le smiley.
Ah oui, smiley. Ah, oui, ok. D'accord.
C'est le smiley le plus important.
Allons-y alors.
Non, par rapport à votre interrogation sur justement votre interrogation à juste titre, hein, sur la soi-disante campagne de peur en cours sur la Russie qui va envahir je ne sais quoi après l'Ukraine, etc. Je vais faire référence à un article d'ailleurs que je vais vous mettre, si vous le permettez, en exergue sur le space, du Wall Street Journal de 1982, qui fait référence et qui résume une étude sur l'économie dans l'ex-URSS et sur les subventions de l'Union soviétique, enfin de la Russie, aux pays frères soviétiques. On se rend compte au travers de cette étude que tous ces boulets de pays de l'Est étaient hyper subventionnés par l'URSS, par la Russie. Alors c'était pas comme Bruxelles le fait actuellement avec des versements de milliards d'euros tous les ans. C'était fait différemment, c'est-à-dire que par exemple la Pologne avait 52%, même après le choc pétrolier des années 70, ils avaient 52% de rabais sur le pétrole russe par rapport au prix du marché international et 26% de rabais sur le gaz naturel russe. Donc, par cette étude américaine, résumée dans cet article du Wall Street Journal, on se rend compte que tous ces boulets de l'Est, bon, il y avait bien entendu une certaine misère due à l'organisation communiste de l'économie, inefficiente, mais tout de même, elles étaient hyper subventionnées. Et je ne crois pas qu'aujourd'hui, une fois que l'URSS soit tombée, chutée, que des sociétés telles que Gazprom, telles que Novatek, telles que Lukoil, etc., qui sont véritablement la colonne vertébrale, en plus du KGB, de la Russie, soient mécontentes que tous ces pays tels que la Pologne, qui est un grand pays de consommateurs de pétrole et de gaz naturel, soient mécontents donc qu'aujourd'hui ils payent le vrai prix du marché sans aucun rabais. Et donc je crois qu'il est absolument illogique de croire que la Russie veuille de nouveau envahir ces pays non russophones, ces zones géographiques non russophones, pour à nouveau les subventionner avec des rabais sur les matières premières, à la place des généreuses subventions que Bruxelles, c'est-à-dire essentiellement la France et l'Allemagne, leur fournissent. Voilà pour votre questionnement qui, il me semblait, est tout à fait légitime.
Merci beaucoup et merci d'avoir mis l'article dans la bulle pour les personnes qui veulent aller le consulter. La seule chose que je dirais, parce que je veux vraiment avancer dans les intervenants pour avancer dans le space, c'est que je l'avais déjà exprimé, la Russie n'a pas de volonté expansionniste. Ça, c'est de la com. Donc vraiment, penser que la Russie veut conquérir l'Europe et avancer, c'est absolument faux. Et j'avais déjà expliqué aussi que ça m'étonnait que personne ne s'interrogeât sur la Turquie par contre. Mais bon, on va pas passer là-dessus, je vais passer la parole à Phil et après à Stéphane, il me semble. Voilà, bonsoir Phil Comte.
Oui, bonsoir Lilou, bonsoir à tous. Je voulais savoir ce que vous pensez en tant que juriste du principe de l'état de droit. Parce que il y a plusieurs définitions. La première définition que moi j'avais apprise il y a longtemps, c'était que l'état de droit, c'était que l'État respectait ses propres lois lui-même. Voilà, il n'y avait pas d'arbitraire et il n'y avait pas de loi d'exception et autres. Bon. Mais quand je vois que maintenant, au nom de l'état de droit, par exemple en Roumanie, on nous dit qu'une personne, une candidate qui est contre l'Union européenne et contre l'OTAN, eh bien, elle est un danger pour l'état de droit. Donc, je me dis, tiens, c'est un peu particulier comme définition de l'état de droit, surtout que dans le même temps, alors que normalement dans les déclarations communes de l'Union européenne au Conseil européen, logiquement pour faire une déclaration il fallait l'unanimité, ben là ils ont dit non mais finalement il suffit d'être 26 au lieu de 27 parce que Orban ben il nous plaît pas, donc on fera une déclaration commune sauf un, voilà, il y aura plus d'unanimité, mais c'est comme ça. Voilà, et puis on va essayer de voir comment, sur les règles de nouvelles sanctions contre la Russie, on va pouvoir le faire sans Orban, alors que normalement, dans les textes européens, il y a marqué l'unanimité. Donc là, j'ai l'impression que le même état de droit, qui est justement le respect des propres textes qui régissent, en l'occurrence l'Union européenne, ben, finalement, ils se torchent avec quand ça les arrange. Donc, j'aimerais savoir, Lilou, ce que vous en pensez de cette notion d'état de droit, parce que j'avoue que j'ai du mal à suivre les dernières évolutions de ce concept. Merci.
Bon, j'en parle dans le space, mais pas tout de suite. Ça correspond un peu, un, à ma désillusion. En tant que puriste, et deux, au constat qu'on est obligé de faire, en effet, avec l'exemple roumain, mais avec plein d'autres exemples malheureusement, avec l'Ukraine aussi, et donc là, vraisemblablement, l'abandon hein, des règles, ou en tout cas le contournement des règles d'unanimité, donc à partir de là, déjà, on a un affaiblissement de ce qu'ils considèrent, eux, comme processus démocratique. Je pense qu'il y a je le dis en anglais, ça va embêter Voltaire, mais une weaponisation du droit, c'est-à-dire on utilise le droit comme arme et les concepts sont en train de voler en éclats, ce qui est bien et pas bien. Parce que le fait que justement il contourne en fait ce qu'est l'état de droit c'est primauté du droit, séparation des pouvoirs, respect des procédures, donc dès l'instant qu'on va contourner les règles d'unanimité déjà on est foutu et ensuite ça envoie un mauvais signal à tous les états et aux citoyens, donc si l'UE respecte pas ses propres règles, comment est-ce qu'elle va exiger que les autres le fassent, et donc là on arrive à tout ce qui est la doctrine du déficit démocratique européen qui commence vraiment à s'asseoir au niveau international, c'est-à-dire nous n'avons que des bureaucrates non élus à la tête de l'UE qui veulent conserver le pouvoir et instrumentalisent le droit de manière à contourner les procédures. Et c'est aussi pour ça que la justification qui passe par... Alors c'est pour ça que certains avaient prédit, souvenez-vous, une deuxième pandémie. En fait, c'est pour prévoir un état de crise qui puisse justifier une captation, d'où l'objet de ce space, un contournement des règles et mes inquiétudes. Parce que ce sera légal. Ce sera légal alors que ça devrait pas l'être. Ça l'est si, encore une fois, j'ai le texte. Et là, je parle pour notre cas à nous. Mais dans le cas de l'Union européenne, ben, ce que j'en pense, c'est que il y a un contournement. Et une instrumentalisation à des fins de captation du pouvoir de manière illimitée. Et c'est moi qui le dis. Dieu sait que je suis toujours mesurée dans mes propos, mais là, je suis obligée de le dire puisque je le vois et parce que je ferai partie aussi de ceux qui agiront contre. Et donc, de vous expliquer aussi que c'est compliqué à dire parce que on peut pas s'exprimer n'importe comment parce qu'il faut que notre société continue à fonctionner même si ça va s'avérer compliqué. Vous n'allez pas être nié dans vos droits du quotidien. Vous allez en perdre certains. Ça, c'est 100% sûr. Il va falloir que vous vous armiez de courage, mais les concepts vont voler en éclats et j'espère pouvoir du coup avoir des portes pour reconstruire. Voilà. Il y aura plus de démonstrations, on va dire, dans la tenue du space, Philippe, mais pour l'instant, c'est ce que je dirais. Mais sachant tout de même que l'exemple roumain n'est absolument pas médiatisé, alors que c'est ce qui risque, entre guillemets, de se passer chez nous. Parce que notre Parlement ne vote plus, entre autres choses. Voilà, donc je pense que du coup, on est d'accord.
C'est ce qu'a annoncé Thierry Breton. Il a dit, regardez, on l'a fait en Roumanie, demain on peut le faire ailleurs. Voilà, donc
ils vont le faire.
Programme. Oui, ils vont le faire. Parce que ce sont des crapules.
Ben oui, on est obligé de le dire. On est obligé de le dire et donc, mais encore une fois, pour l'instant, nous ne sommes pas en guerre. Je n'ai pas de texte. Sachez-le. Alors, je vais passer la parole à Stéphane et après, on ira sur la mobilisation. Bonsoir Stéphane.
Bonsoir Lilou. J'ai 54 ans, j'ai vécu 27 ans en Belgique et là, ça fait 27 ans que j'habite en Israël. Donc ça fait 27 ans que je suis ici dans un pays qui est tout le temps en guerre. Je peux vous rassurer, franchement, on s'habitue largement. Alors, je pense que la plupart des gens ici, sur le space, en France, en Europe, etc., sont malheureusement encore naïfs en pensant que vous êtes toujours dans des domaines de démocratie, mais vous êtes en dictature. Je rappelle que démocratie vient du mot grec « demos kratos », qui veut dire « le pouvoir du peuple ». Il n'y a plus du tout de pouvoir du peuple. Il n'y a plus du tout de démocratie. Tout ce qui se prétend être démocratique, en fait, est totalement en fait dictature. Idem pour aux États-Unis quand on dit qu'on fait partie du parti démocrate, il faut transformer en fait le mot démocrate par dictateur, d'accord ? Quand vous voyez, vous avez parlé de la Roumanie, ok ? Vous avez oublié la Géorgie avant, et vous avez oublié également la Serbie qui est en train de se révolter, la Turquie dont Erdogan a mis son opposant en prison. Ce qui a déclenché des émeutes énormes actuellement en Turquie. Toute l'Europe est manipulée actuellement. Absolument toute l'Europe est manipulée. On vous fait croire que vous êtes dans des démocraties, on vous instaure des systèmes de vote, on fait croire que les votes sont honnêtes et qu'il n'y a pas d'opposition contrôlée, qu'il y a vraiment des oppositions, que par exemple en France, le journal Figaro est de droite et que le journal Le Monde est de gauche. Mais tout ça, vous vivez en fait dans un rêve, c'est-à-dire vous vivez en fait dans ce qu'on vous a fait croire depuis votre naissance, on vous a fait croire depuis très très longtemps que vous êtes dans un monde bipolaire où il y a d'un côté la gauche et d'un côté la droite, alors qu'en fait il n'y a qu'un seul monde, c'est celui où vous avez les gens d'en haut et les gens d'en bas, les féodaux et les gueux. Et c'est comme ça partout en Europe. Quand vous voyez que des gens comme von der Leyen, qui est une ancienne ministre allemande, qui a été accusée de corruption, est arrivée à la tête de l'Union européenne, qu'elle donne des ordres alors qu'elle a été que personne n'a voté pour elle. Quand vous voyez que en France, comme vous l'avez dit, il y a de moins en moins de on vous enlève de plus en plus de liberté sous couvert de soi-disant des lois. Que même quand les lois elles sont stupides et qu'elles arrivent chez vous au Conseil constitutionnel, vu que les gens sont corrompus, ben quand même elles passent. Vous êtes en dictature, mais vous en rendez pas encore compte. C'est dommage.
Alors, j'ai fini. Oui. Non, pardon, je répondais en même temps. Déjà, je suis triste pour vous que vous viviez en effet en état de guerre constant. Et c'est vrai que ça m'a été rapporté souvent par des personnes qui vivent en Israël, qu'elles soient expats ou qu'elles soient israéliens, qui m'ont montré même des applications qu'elles ont, où elles voient ce qui risque de leur tomber sur la tête. Enfin voilà, je souhaite à personne de vivre
c'est
ça.
Radon, c'est Red Alert. Là, par exemple, aujourd'hui,
voilà,
je sais plus vers quelle heure, on a encore quelques missiles balistiques qui ont été tirés du Yémen et qui visaient donc le centre d'Israël. Alors quand c'est un missile balistique qui arrive, c'est absolument toute la zone du centre d'Israël, y compris Tel Aviv et Jérusalem, qui oblige les gens à courir vers les abris. Pourquoi ? Parce que en fait, quand c'est un missile balistique qui arrive, on ne sait pas du tout exactement où il va atterrir, ni qu'est-ce qu'il y a dans la tête du missile. C'est plus de 2 millions de personnes qui vont dans les abris plusieurs fois par jour. Mais on s'y habitue, hein, Lilou. On s'y habitue large.
Oui, mais c'est qui est grave.
On a un système. Ouais. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. C'est qu'on on a des systèmes. Heureusement, d'ailleurs, les États-Unis veulent le même, d'ailleurs. Hein, ils veulent appeler ça le Golden Dome. Mais l'Iron Dome,
Oui, le dôme de fer, mais bien sûr.
Le dôme de fer, voilà, exactement. Mais il n'y a pas que ça. Hein. On a ce qu'on appelle la fronde de David. On a également des missiles qui vont beaucoup plus loin, qui peuvent arrêter même un missile qui partirait d'un pays très très loin avant même qu'il parte du pays. Donc à ce niveau-là, je remercie tous ceux qui ont lancé ces programmes-là de technologie. On est tranquille et pourtant on est un tout petit pays, hein, tout petit. Je vous rappelle qu'Israël, la dimension d'Israël n'est pas plus grande que celle de la Belgique. Et je pense d'ailleurs que Walter est belge. Hein. Tout à l'heure il a sorti 70. À mon avis il est belge,
hein, parce que moi aussi je suis belge.
Donc j'ai repéré tout de suite. Ouais. Donc à mon avis, soit il est belge, soit il est suisse.
Oui, c'est ça. Canadien. Il est suisse aussi.
Ouais, bon, écoutez. Il est suisse aussi.
Mais bon courage en tout cas. Mais par rapport à
moi, j'ai plus
disiez...
de peine pour vous, hein, franchement. Oui. Sincèrement, je
non,
me sens
mais
plus
en fait, alors, en France. Oui, je sais. J'ai souvent entendu ça. Je peux l'entendre. Alors déjà par rapport à ce que vous exprimez sur le fait qu'on soit en dictature, c'est vrai que moi d'un point de vue juridique j'estime qu'on n'est pas en dictature, mais bon, et ça a été pour ceux qui me suivent depuis longtemps ma litanie, à savoir on est en démocratie et pour l'instant j'en bouge pas parce que j'attends qu'on me le donne et j'attends qu'on se positionne, parce que quand il y aura une vraie position, c'est-à-dire le pouvoir politique qui décide et ça a des conséquences juridiques, là on peut travailler pour des personnes comme moi. Pour l'instant on peut pas parce qu'en fait on est dans une espèce d'entre-deux. Voilà. C'est comme une espèce de démocratie formelle, en fait, avec un pouvoir effectif concentré, comme si vous aviez un droit d'exception qui serait intégré dans le droit commun. Ça rejoint un peu ce que l'interrogation de Philippe. Et finalement, on a un arc de contrôle total qui passe par ce pouvoir qui est devenu un peu algorithmique, financier et maintenant militaire. Et l'exception, elle est devenue la norme et on arme le droit pour que le droit la verrouille. Vous voyez, c'est ça ma réflexion globale sur la captation à durée indéterminée, comme j'essaie de l'exprimer ce soir. Et moi, je suis pas inquiète dans le sens où on est dans une période d'histoire, c'est vrai. Il va falloir être courageux, c'est vrai aussi. Je ne sais pas, je ne peux pas dire formellement si Emmanuel Macron ne va pas tout tenter comme il est en train de le faire pour aller vers une guerre que Vladimir Poutine lui-même ne veut pas.
Si, c'est ce qu'il va tenter. Il va tenter, mais pas pour les raisons que vous pensez.
Je sais pas.
Pas pour les mêmes raisons.
Ah bon, c'est quoi, quelle raison? Oui, bien sûr, allez-y.
Alors, En gros, il faut également regarder la vision globale. Alors moi, j'aime bien, les gens m'appellent complotiste et j'adore ce mot, en fait. Je trouve que c'est tellement très intelligent, en fait, de faire appeler complotiste. Alors, juste un petit détail, le complotisme, ça a été déclenché par c'est un mot qui a été créé par la CIA juste après l'assassinat de Kennedy en 1963. Pour faire croire que des gens qui se posaient des questions sur une intervention éventuelle du gouvernement dans l'assassinat de Kennedy, bah, c'était des gens qui pensaient que la Terre était plate et qu'on était gouverné par des lézards. Mais en gros, c'était pour discréditer. Mais en fait, maintenant, avec ce qui a été révélé donc par les documents qui ont été déclassifiés par Trump, on se rend compte que c'est effectivement le CIA qui a fait ça. En gros, il y a un gouvernement mondial, d'accord ? Donc vous pouvez regarder Macron, se dire Macron va déclencher une guerre, etc. Mais je vous rappelle juste quelque chose et un moteur de réflexion, c'est que depuis 1980, et encore je suis belge, hein, je connais bien l'histoire française, pourtant je suis belge et israélien. Donc vous avez eu Mitterrand, après quoi vous avez eu d'autres présidents, d'accord ? Donc vous avez eu également Chirac, vous avez eu Sarkozy et compagnie. Est-ce que vous vous rendez compte, est-ce que quelqu'un s'est un jour posé la question, comment ça se fait qu'un président, une fois de gauche, une fois de droite, prenne toujours le même conseiller, à savoir Jacques Attali? Est-ce que vous trouvez ça normal qu'un président prenne un conseiller qui soit de l'autre bord à chaque fois? Non, depuis le début en fait. Alors que ce soit des Macron, que ce soit des Scholz, des Angela Merkel, que ce soit des gens comme Trudeau, que ce soit, ce sont des marionnettes. Et les gens qui manipulent Macron sont des gens qui savent qu'ils sont en train de perdre le contrôle du monde et ils n'ont plus d'autre choix maintenant que de déclencher une troisième guerre mondiale. Ils n'ont plus d'autre choix. Parce que les gens se réveillent de plus en plus sur le fait qu'en fait, ils sont manipulés depuis longtemps par des gens qu'on ne connaissait pas, des gens de l'ombre. Et le jeu est fini pour eux. Donc, fini pour fini, ils vont tout tenter. Le problème, c'est qu'ils peuvent pas sans les Américains. Trump est arrivé et ça les emmerde. Ils peuvent pas. Ils se rendent compte que les Chinois et les Russes s'entendent bien avec Trump, malgré ce qu'on dit. Il y a de bons accords, il y a des bons respects. Et comme tu l'as dit tout à l'heure, la Russie n'est pas du tout expansionniste, en fait. Donc là, en fait, la France essaie de déclencher une troisième guerre mondiale, l'Allemagne aussi, un peu moins, l'Angleterre aussi, mais je peux vous garantir qu'ils n'y arriveront pas. Donc, au Laker, ce kit de survie, vous pouvez vous torcher avec, comme on dit, excusez-moi le terme, hein, ça va vous servir à rien du tout. Il n'y aura pas de guerre, moi je vous le dis sincèrement.
Oui, alors non, je pense aussi qu'il n'y aura pas de guerre, mais je pense qu'il y a vraiment des tentatives d'y aller. Alors après, c'est vrai que nous, en tout cas dans mon space, moi, les histoires de gouvernement mondial, tout ça, même si j'entends ce que, et je suis pas dupe des situations, moi je rappelle juste une chose, c'est que l'exercice du pouvoir, c'est une chose qui est complexe et qu'arrivé à certains niveaux de pouvoir, on a toujours plus important que soi et que même si on est soi-même un homme politique ou une femme politique, on a des obligations en fait. Qui sont là et comme quand j'explique en fait que la stratégie de communication gouvernementale ou positionnement du président, ça n'est qu'une stratégie d'un homme politique pour moi et qui peut être réitérée par d'autres hommes politiques derrière lui et je vois pas de en fait de démons, de choses négatives vis-à-vis de ça en fait. Je me dis juste que sur l'instant, alors il a fait beaucoup de mal au pays, mais sur l'instant, c'est une stratégie politique comme une autre et oui, je pense aussi qu'il n'y aura pas de guerre, mais je me dis qu'il ira quand même au bout de son idée. Voilà, mais merci en tout cas, c'était intéressant et vrai.
Juste une dernière phrase, si tu permets.
Oui, bien sûr.
Vous pensez quand même avoir des garde-fous en France, comme le Conseil constitutionnel. Mais à partir du moment où vous mettez des gens qui sont corrompus à la tête de ces organisations, qui sont censés contrôler les faits et gestes d'un président ou du gouvernement, à partir du moment où ces gens-là sont corrompus aussi, il n'y a plus de garde-fous. Hein. C'est porte ouverte à toutes les folies.
Alors oui et non, parce que en fait, dans mon idée à moi, si on souhaite véritablement être dans une opposition, dans une révolution douce, c'est-à-dire de l'intérieur, et ou alors à un niveau de citoyen, déjà exprimer qu'ils sont corrompus, dans l'absolu c'est faux, puisqu'il n'y a pas de condamnation. Il nous faudrait avoir les condamnations, d'accord ? Et même si elles sont classées sans suite...
Il faut avoir des juges qui vont jusqu'au bout des condamnations.
Oui, mais la vérité, oui, mais le système est ce qu'il est. Le système fonctionne. C'est un peu l'idée de ce space. Et c'est l'idée aussi que j'ai dans la plupart de mes spaces depuis un certain temps. D'ailleurs, depuis toujours, je pense, juridiquement, j'analyse factuellement et juridiquement. Comme ça, en fait, on peut pas non plus venir nous taxer de complotistes puisqu'on est juste sur du factuel et du juridique. factuellement ou juridiquement, Richard Ferrand n'est pas corrompu parce qu'il a, ça a été classé sans suite, il me semble, ou alors il n'a pas été condamné. Maintenant, est-ce que d'un point de vue éthique, c'est normal qu'il soit à la tête du Conseil constitutionnel? Je ne le pense pas. Et pas que lui, il y a une femme aussi qui a été nommée récemment, je ne sais plus qui, mais bon voilà. Après, d'un point de vue de des juges qu'on me qualifie tout le temps de corrompus, pareil, si je veux la preuve que le gouvernement établit des textes pour aller en entrer en guerre, je veux qu'on m'apporte la preuve que les juges le sont. Moi, personnellement, je crois encore en la justice parce que je suis une puriste et parce que j'ai vu des combats menés pot de fer contre pot de terre qui ont été gagnés par les pots de terre. Ça prend du temps. Ça demande de la résilience. Ça demande d'être sans émotion et de considérer les faits et de considérer le droit comme eux vont se servir du droit pour avancer leur pion et exécuter leur politique. C'est ça que j'essaye en fait de faire voir dans mes spaces, c'est-à-dire que oui, la situation est complexe, oui, nous avons un problème. Moi-même, alors que j'ai toujours milité en expliquant que non, c'était très bien respecté, même si c'était borderline, c'est ce qui m'a aussi valu beaucoup de haters parce que ma voix était dissidente sur l'ensemble en fait de cette plateforme qui a tendance à être... Je ne vais pas dire complotiste parce que c'est faux, complotiste en plus ça n'existe pas légalement, donc ça ne veut rien dire pour moi, mais qui a une tendance qui est un peu différente en fait de la mienne. Mais je voulais quand même ajouter quelque chose par rapport à ton propos, Stéphane, si tu permets. C'est que moi, je ne suis pas dans l'illusion de la gauche et de la droite et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ne sont absolument pas dans l'illusion de quoi que ce soit sur cette plateforme. On a eu des discussions pendant des heures et des heures. Il n'y a même plus d'extrême au final puisqu'il y a des personnes qui ont envie d'avoir des choses qui sont faites par le RN, mais en même temps qui sont sensibles à des choses qui sont faites... Alors, je vais pas dire LFI parce que c'est pas vrai. LFI, c'est un poisson pilote à part par de la gauche. Et de toute façon, la gauche n'est pas la gauche puisque la gauche a beaucoup de traits de droite et tout ceci est une vaste fumisterie. On le sait. Mais encore une fois, j'encourage les gens à s'engager en politique pour tenter de faire changer les choses. Parce que si au final, personne ne s'engage jamais, personne ne fait jamais rien, même au niveau territorial, nous n'avancerons pas. Est-ce que le français aujourd'hui, alors je déteste la terminologie « gueux », ça ne veut rien dire pour moi, est-ce que le français classique, parce que j'aime pas lambda non plus, citoyen qui tous les jours vit sa vie classiquement avec ses enfants, parce que moi j'ai vu plein de vidéos TikTok où les gens disent à Macron « non mais tu gardes ton sac, tu gardes ton kit de survie, nous on va pas à la guerre, laisse-nous, on vit notre vie », voilà. Mais ces gens-là, on va venir chercher leur maison, on va venir chercher leur terre, on va venir chercher ce qu'ils ont difficilement acquis, parce qu'on est tous dans des situations sociales complexes,
sans
peut-être
les
que
épargnes.
Là, on aura un sursaut. Oui, alors l'épargne, ça arrive. Les retraites, on n'est pas loin, mais comme on doit vivre, nous les jeunes, pour les boomers, ils les toucheront pas, je pense. Faut juste que tu fermes ton micro, s'il te plaît, Stéphane, parce que sinon ça fait du bruit. Merci. Et du coup, est-ce qu'il y aura un sursaut? Oui, peut-être. Et encore, j'ai l'impression qu'il pousse, qu'il pousse, qu'il pousse. Donc, à voir. Mais merci de ta contribution. On va écouter Héloïse et peut-être Mérotte. Et après, on va se lancer dans la mobilisation générale parce qu'il faut qu'on avance. Bonsoir, Héloïse.
Bonsoir, Lilou. Ben, je vous écoute. En fait, moi, j'ai envie de... Enfin, je me pose une question, je vous la pose. Est-ce que, constitutionnellement parlant, on peut, quand on est élu avec moins de 20% au niveau des élections, est-ce qu'on peut entraîner tout un peuple à aller vers la guerre contre la Russie? Est-ce qu'on peut, je vous dis élu, je crois qu'il a été élu au second mandat avec 16%, me semble-t-il, et certains donc ont voté pour lui, pas forcément par conviction pour faire barrage au Rassemblement national, mais est-ce qu'on peut constitutionnellement parlant, je ne vais pas dire juridiquement parlant, parce que bon, mais en engager tout un peuple, ça veut dire 80% qui n'ont pas voté pour Macron, dans un danger d'affrontement face à la Russie. Hein. Je me pose quand même cette question. Je trouve que c'est énorme pour moi, parce que bon, les personnes qui n'ont pas voté pour Macron devrait bon se manifester davantage. Alors, quelles que soient les oppositions, quels que soient les groupes politiques, 80% de qui n'ont pas voté pour Macron ne peuvent pas être engagés de force à un début de ce que veut Macron, parce que pour moi, il la veut, la guerre contre la Russie. Et puis surtout, faire au moins un référendum. Au moins savoir si on continue à soutenir l'Ukraine à tout prix, en s'endettant, surendettant, et peut-être en envoyant des troupes, avec le danger que ça peut comporter, sachant que Poutine l'a dit, il ne veut absolument pas de troupes européennes en Ukraine. Enfin, je ne sais pas. Je trouve que élu avec si peu de voix et entraîner tout un peuple derrière à quelque chose de hyper dangereux, je me pose la question, juridiquement parlant ou constitutionnellement parlant, si c'est acceptable et si ça peut pas être contesté, justement, au plan juridique ou au plan... voilà.
Merci Héloïse, c'est une très bonne question, très pertinente, parce qu'en fait elle touche à la fois à ce que j'appelle la légitimité, donc la légitimité démocratique, et donc les pouvoirs constitutionnels du président. Donc on va essayer de faire la part des choses entre les deux, c'est-à-dire qu'est-ce qu'elle permet la Constitution, et à la fois aussi la réalité politique et démocratique, entre guillemets. Donc juridiquement la Constitution, oui. Le président de la République a totalement le pouvoir de nous engager, d'engager le pays dans un conflit armé, et même s'il a été élu avec un faible pourcentage de vote au premier tour, c'est l'article 15, le chef des armées, l'article 5, parce que c'est à lui, il est garant en fait du respect de la Constitution, et dans l'article 5, si vous allez lire, il y a une notion d'arbitrage. Voilà. C'est-à-dire qu'il va faire en sorte qu'il y ait ce qu'on appelle un fonctionnement régulier des pouvoirs publics et la continuité de l'État. Des espèces en fait de notions juridiques qui permettent de mettre beaucoup de choses dedans. En 2008, il y a une réforme de l'article 35 et dans cet article-là, on a incorporé le gouvernement. Donc le gouvernement, il doit informer en fait le Parlement de toute intervention armée dans les 3 jours qui suivent le déclenchement. Donc le Parlement, il doit donner son autorisation, mais au-delà de 4 mois. Donc le président peut lancer une intervention militaire, il n'a pas besoin de l'autorisation préalable du Parlement, tant que ça reste du court terme. Si jamais c'est une guerre prolongée, à ce moment-là, le Parlement doit approuver. Et du coup, en effet, très justement, on se heurte à cette légitimité démocratique, parce qu'il a été élu avec moins de 20% des inscrits au premier tour, j'ai plus les chiffres, enfin voilà quoi. Le souci chez nous, c'est qu'on a un scrutin majoritaire à 2 tours, et donc la légitimité juridique, elle vient du second tour, même si on a un taux d'abstention qui est élevé. Et là, le débat en fait sur la légitimité morale, on va dire, ou politique, il est complètement distinct, parce que en effet, il y a beaucoup de personnes qui vont considérer que quand un président a peu d'adhésion réelle, donc le vote par défaut, par exemple, pour faire barrage, ou une abstention énorme, ben, sa capacité à engager des décisions graves comme une guerre, elle devrait être plus encadrée. Mais est-ce qu'on l'a fait? Ben non. On l'a pas encadré, en fait. Et c'est bien ça, notre problème. Donc, constitutionnellement, oui, il peut. Avec l'article 35, si c'est plus long. Est-ce que ça nécessite un vote? Pas tout de suite. Comme je l'ai dit, au-delà de 4 mois. Et est-ce que il a une légitimité à le faire, surtout dans notre cas? Ben non, en fait. Voilà. Et comme alors, ma question, c'est, vu ce qu'on a constaté avec les parlementaires pendant la première pandémie, qui était particulière parce que c'était une question de sécurité sanitaire et ainsi de suite, donc état d'urgence et j'en passe, les parlementaires, comme ça concernait, je pense aussi la santé, on dit ok. Là, est-ce qu'on va avoir un sursaut parlementaire? Peut-être. Est-ce que ça servira à quelque chose? Non. Parce qu'il a le pouvoir de le faire. Donc c'est triste, mais oui, il a le pouvoir de le faire. Voilà. Et c'est pour ça qu'il est à fond, là, en train de faire de la com. Et aussi, les médias, on va dire, télévisuels classiques, radiophoniques un peu moins, en fait, et un peu plus de nuances, ont ou font l'apologie de la guerre. C'est-à-dire que quand, par exemple, TF1 ou France 2 passent des encarts de plus de 10 minutes sur les jeunes qui souhaitent s'engager, la guerre, avec des petites icônes, avec des avions de guerre, et alors surtout quand lui se met au milieu des drapeaux avec des jeunes en tenue militaire et puis 2 avions derrière, là, le message, il est clair. Mais ça n'est qu'un message. Pour l'instant, je n'ai pas d'enclenchement de ces articles constitutionnels et je ne pense pas que je les aurai parce qu'il y a quand même l'intervention des chefs des armées qui doivent vérifier qu'il est lucide en fait à prendre les décisions qu'il prend et vous n'aurez pas d'article 68 de destitution, tout ça est bien cadré, hein, captation du pouvoir. Mais voilà, c'est ma réponse à ta question, mais honnêtement on n'ira pas jusque là. il le fera pas. Même si vous avez mis le petit sac là, souvenez-vous du lot de petits sacs qu'il y avait aussi post-pandémie là où on devait avoir nos passeports, nos trucs. Hein. Non, il y aura pas ça. Et puis j'ai envie de vous dire, dans le sac où on nous dit de mettre de l'argent, vous imaginez bien que votre argent c'est que du papier, hein. Ça vaudra que dalle hein, s'il y a de la guerre. Hein. Faudra des pièces d'or en fait, entre autres choses, voire de l'argent. Voilà, Héloïse. Alors, je vais passer la parole à Nicolas, Romain, et ensuite je passerai à Walter. Salut Nicolas, ça va?
Bonsoir Elou, je vais bien, ainsi que toi aussi, j'espère. Bon, alors j'ai une information à transmettre. Alors, c'est un résumé du discours de Mario Draghi au Sénat italien le 18 mars 2025, où il a plaidé notamment pour, en somme, qu'on doit aller plus vers un État européen. Alors, vous avez par exemple la création d'un commandement militaire européen. Je le cite, il est nécessaire de définir une chaîne de commandement de niveau supérieur qui coordonne des armées hétérogènes en termes de langage, de méthode et d'armement et qui soit capable de se détacher des priorités nationales en fonctionnant comme un système de défense continental. Ensuite, une industrie de défense européenne. Je le cite, d'un point de vue industriel et organisationnel, il s'agit de favoriser les synergies industrielles européennes en concentrant les développements sur les plateformes militaires communes qui permettent l'interopérabilité et réduisent la dispersion des chevauchements actuels dans la production des États membres. Ensuite, c'est la création d'un marché unique européen des services. C'est d'avoir la création d'un véritable marché unique pour 450 millions de personnes qui constitue donc la véritable condition préalable au lancement d'un site d'innovation large et vital, un marché des capitaux capable d'orienter l'épargne vers les startups les plus dynamiques fournira le financement nécessaire. Ensuite, c'est une cybersécurité européenne. Je le cite, la convergence des technologies militaires et numériques conduit à la synergie des différents systèmes de défense dans les airs, la mer, la terre et l'espace. Nous devons donc nous doter d'une stratégie continentale unifiée dans le cloud, le supercalcul, l'intelligence artificielle ainsi que la cybersécurité. Enfin, le dernier point, c'est vers l'État européen. Je le cite une dernière fois, pour mettre en œuvre bon nombre des propositions du rapport, l'Europe devra donc agir comme si elle était un seul État. Cela pourrait signifier soit une plus grande centralisation des décisions, des capacités de dépenses, soit une coordination plus rapide, plus efficace entre les pays qui, en partageant des lignes directrices de base, seront en mesure de parvenir au compromis nécessaire à un chemin commun. À chaque étape de ce processus, les parlements nationaux et européens auront un rôle essentiel à jouer. Voilà ce que j'avais à dire. Donc, on va vers un État européen. Ah oui, petite anecdote. Il y a quelques réflexions qui se font au Canada pour que le pays adhère à l'Union européenne. C'est sorti aujourd'hui dans Radio-Canada. Voilà, je termine.
Oui, alors la blague de Justin qui essaie de s'accrocher à Manu, non, en fait, hein, il n'y aura pas de Canada dans l'Union européenne, voilà. Et merci, parce que j'en ai pas parlé finalement de cette déclaration, mais encore une fois, si on veut une défense, il faut que ce soit un pays hors une fédération, allez, je suis gentille. Pareil, là, c'est d'un point de vue juridique. Ce ne sera pas le cas, puisqu'on est des États membres. Je vous ai fait la démonstration des centaines de fois. Nous n'avons pas de peuple européen, nous avons des États qui sont ensemble, dans un espace. Et ce qui est intéressant, bon, l'ensemble est intéressant dans ce que dit Nicolas, mais ce que vous avez, c'est les marchés publics de services. Je l'ai dit la semaine dernière, à mon sens, l'Europe va devenir un espace de marché. Et ce qui dérange beaucoup, notamment la France, parce qu'on se fait bien striker à cause de ça, ce sont les règles de marché public européen qui nous strike complètement et qui vraiment posent problème déjà depuis la bon, allez, deux fois les élections présidentielles et personne ne travaille dessus parce qu'après tout, voilà, il y a du pro-européen dans les deux mandats qui nous restent. Et donc, tout ça c'est du vent, hein. Tout ça c'est du feu, c'est du vent. S'il n'y a pas le peuple, il n'y a pas la nation et à partir de là, il n'y a pas l'armée. Mais, se doter d'une armée, même d'un point de vue fantoche, en captant le droit et en le weaponisant, ça peut faire semblant. C'est pour ça que je vous dis, on est borderline. Mais en vérité, vous savez, comme on n'a pas été invité au négo, on est en dehors, quoi. C'est la fin du multilatéralisme, on l'a déjà expliqué il y a deux mois. Ils sont dans le bi, dont je négocie avec toi direct. Trump est pas si en super posture que ça, faut pas croire. Il est bloqué un peu par la Russie. Donc tous ces gens-là, en fait, ils tournent un peu en rond sur eux-mêmes et ils essaient de faire monter la sauce pour vous faire peur par la même occasion. Donc merci Nicolas. N'ayez pas peur, n'ayez point peur. Alors j'ai eu la personne qui est venue tout à l'heure, je le dis avant de donner la parole à Romain, me poster des trucs sur Gaza dans mon feed. Et elle l'a fait, en fait, au moment où Stéphane s'est exprimé. Comme je suis une personne juste, je le dis Joy Flood Team. Je t'explique. Nous avons le droit de parler avec les Israéliens. Les Israéliens ne sont pas responsables des actions de leur gouvernement, qui les approuve ou non. Ça, c'est leur choix, c'est leurs opinions. Personnellement, je suis pour la paix entre Israël et la Palestine. Je l'ai dit, je l'ai toujours dit, ça m'a valu de la foudre de beaucoup de gens sur ce réseau social. Ce qui se passe à Gaza me terrifie, me scandalise et je suis vraiment meurtrie pour ces gens. Ce qui n'enlève rien au fait que je puisse être aussi meurtrie ou aussi peinée pour des Israéliens qui vivent un temps de guerre permanent. Donc ça serait bien qu'au lieu de poster des trucs à l'arrache dans ma bulle, vous veniez en space et vous veniez discuter et vous arrêtiez de faire les gamins deux secondes. Voilà. Je le dis parce que ce que vous faites juste en mettant 3 tonnes de vidéos de pauvres enfants qui sont massacrés, déchiquetés, de femmes, ça apporte rien en fait. C'est pas ça qui va ramener la paix en fait. Et arrêtez d'essayer d'accuser des simples citoyens lambda qui vivent dans un pays qui en sont originaires, puisqu'il y en a aussi, de tous les maux. Il faut recouvrer la paix. Voilà, je dis ça juste comme ça. Merci Nicolas, on avance. À toi Romain, salut.
Bonsoir Liu, bonsoir ma chère Liu, j'espère que tu vas bien, bonsoir à tous, bonsoir Nicolas, Souvrenix, Walter, bonsoir à tous. Beaucoup de propos et d'échanges assez intéressants, et en fait quand j'entends parler l'intervention intéressante de Nicolas concernant Mario Draghi, le positionnement de Mario Draghi, en réalité il s'inscrit dans la continuité de son œuvre, si je puis dire, puisqu'il était aussi à l'origine de son texte et de son rapport, le fameux rapport Draghi, par le coup, on entendait toujours. Je sais pas si ça a coupé, c'est pas très pratique. Donc le rapport de Mario Draghi, qui prévoit de fédéraliser l'Union européenne et d'en fait de créer un emprunt européen géant qui permet de pousser à la fédéralisation. Et pour faire le lien entre les deux derniers intervenants, je crois que c'était la jeune femme, comment s'appelle-t-elle? Pardon, Héloïse, voilà, pardon. Pour faire le lien entre les deux derniers intervenants, je ne crois pas non plus à la guerre, et je pense que toute la politique qui est menée, elle vise une stratégie de pousser à la fédéralisation de l'Union européenne et faire disparaître la France au sein de l'Union européenne, parce qu'en fait, il y a une course contre la montre qui est menée entre, grosso modo, les tenants du mondialisation et du fédéralisme, qui s'oppose à Trump, aux Américains et aux autres pays, les BRICS, je schématise un petit peu à l'extrême, mais l'idée c'est un peu ça, puisqu'en fait Trump, avec ses qualités et ses défauts, hein, moi je parle avec beaucoup de détachement, je suis français, je ne suis ni américain ni russe, j'essaie de voir le monde avec un effort de lucidité, et en tout cas je pense que les Américains ont compris que le monde issu de la période 1945-1991, voire jusqu'à aujourd'hui, est en train de tourner, et qu'en fait le monde devient westphalien avec la poussée d'État-nations, et qu'un monde multipolaire est en train de se mettre en place. C'est la raison pour laquelle Trump mène une politique qui va pas du tout dans le sens de celle qui était celle de ses prédécesseurs. Et en écoutant avec attention Nicolas concernant Mario Draghi, ça m'a fait penser immanquablement à Jean Monnet, et quand on parle de défense, ça me renvoie, mais ça c'est un peu mon réflexe d'ancien étudiant en histoire, ça me renvoie à la CECA et à l'échec de la CECA et à la personne de Jean Monnet. Et faut se souvenir que Jean Monnet, qui est l'un des pères fondateurs de l'Europe, était tout entier dominé par une idée qui était celle, en réalité, d'empêcher la reconstitution des souverainetés nationales. D'ailleurs, on se souvient notamment qu'il avait fait miroiter, dans le cadre de la mise en place de la CECA, il avait fait miroiter au chancelier Konrad Adenauer la perspective d'avoir à partager avec la France, ne serait-ce que dans un domaine limité, le charbon et l'acier, une souveraineté que la République fédérale d'Allemagne n'avait pas totalement récupérée. Pendant la Quatrième République, Jean Monnet avait comme efficacement joué de l'aide américaine, indispensable avec la reconstruction, pour faire avancer aussi cette idée d'une organisation européenne face à l'Union soviétique. Et il avait compris qu'aux yeux des États-Unis, sortis de la guerre avec une production excédentaire, l'union du vieux continent et l'ouverture au marché des produits américains pouvaient conditionner leur aide économique. Faut se souvenir aussi que Jean Monnet avait été commissaire au plan. Ça fait partie aussi de son... C'est l'un des postes qu'il a occupé. Et je voulais vous lire quelques lignes qui traduisent aussi l'état d'esprit et la personnalité de Jean Monnet et toute l'idéologie européenne dans laquelle on est depuis les années 40-50. Relire la lettre qu'il avait adressée au président du Conseil, Georges Bidault, le 28 avril 1950. Je vous en lis quelques lignes. « Le gouvernement français estime que l'unité allemande pacifiquement réalisée est nécessaire et il s'efforcera de la promouvoir dans les entretiens internationaux. » Donc, les obstacles accumulés empêchent la réalisation objective de cet Les obstacles accumulés empêchent la réalisation immédiate de cet objectif. La voie pour les surmonter est de porter immédiatement l'action sur un point limité mais décisif, la mise en commun de la production de charbon et d'acier, première étape de la Fédération européenne sous une haute autorité commune dans une organisation ouverte à la participation d'autres pays d'Europe. Et Konrad Adenauer avait répondu, quand Jean Monnet m'a proposé ce projet, j'ai remercié Dieu. Donc, libéralisation et supranationalité sont les deux mamelles de l'Europe naissante. Comme le précisera Monnet à Adenauer, il faut créer une autorité supranationale dont les divers gouvernements seront, dans ce domaine d'attribution, les agents d'exécution. Donc on est vraiment dans cette logique et aujourd'hui, dans ce qui est en train de se tramer en termes de politique et de transfert de souveraineté, on est vraiment dans cette continuité de cette politique-là, qui avait rencontré des adversaires. Hein. Moi, je cite régulièrement à loisir Pierre Mendès France, qui n'avait pas ratifié le traité de marché commun 1957, dans sa fameuse formule, il y a deux façons pour une démocratie d'abdiquer, remettre ses pouvoirs à un homme ou une commission qui les exercera au nom de la technique. Donc voilà, c'est un petit rappel par rapport à ce que dit Nicolas. Et pour en terminer, je ne veux pas faire trop long, tu parlais, Lilou, avec ton intelligence et ta grande culture juridique et ton expertise de ces questions-là qui sont très intéressantes. Et moi, je ne suis pas du tout juriste, même si j'ai un peu travaillé là-dessus en histoire, parce que ça faisait partie de mes thèses, en tout cas de mes recherches sur le... J'avais travaillé sur le droit du travail en 1900-1910-1906, et sur la protection des femmes et des enfants dans les établissements manufacturiers. Donc j'ai un peu lié la question du droit à celle de l'histoire, qui est davantage une discipline qui est davantage la mienne que le droit. Mais en tout cas, c'est pas du tout antinomique. Et pour en terminer, je veux juste rappeler l'idée que je me fais de l'état de droit, elle est particulièrement gaulliste, puisque c'est celle du général de Gaulle qui, vous vous souvenez que Jean Foyer était son ministre, son garde des Sceaux entre 1962 et 1967, si ma mémoire est bonne, il était garde des Sceaux sous Pompidou, et il y avait eu ces fameux échanges entre Jean Foyer et le général de Gaulle, où de Gaulle avait dit à Jean Foyer, souvenez-vous de ceci, il y a d'abord la France, ensuite l'État, enfin, autant que les intérêts majeurs des deux sont sauvegardés, le droit. Et je crois qu'aujourd'hui, on est, me semble-t-il, assez loin de la conception gaullienne et gaulliste du droit. Ce qui ne veut pas dire pour autant que le général de Gaulle était, comment dirais-je, opposé par nature au droit. Et il critiquait ce qu'on appelle le juridisme, mais il n'était pas pour autant opposé à la notion de droit. Il faut savoir qu'il y a des membres de sa famille qui étaient je crois qu'il y avait des gens de sa famille, il y en a un qui était consul, je crois qu'il y avait un procureur, un avocat parmi les membres de sa famille, sauf erreur de ma part. Et puis, bon, il a une histoire qui lie au droit aussi, hein, puisqu'il avait été confronté à la justice, parce que je rappelle qu'il avait été condamné à mort par contumace et à la privation de ses biens par les juridictions... par les juridictions, pardonnez-moi, je crois que ça a coupé, pardonnez-moi. Oui, il avait été condamné donc à mort par contumace et la privation de ses biens par les juridictions toulousaines et clermontaises, elle était 40. Mais il avait quand même pour le droit un respect quand même assez certain dont il s'agissait pour lui à partir du moment où le droit lui paraissait conforme à la sagesse et au bien public. Voilà, j'en ai terminé, mais c'est vrai que j'ai un peu cette tendance parfois à faire des liens entre le passé et le présent. Mais je pense que on est très loin des conceptions du général de Gaulle. Par contre, il y a vraiment une forme de continuité entre Mario Draghi et Jean Monnet. Merci.
Oui, complètement. Merci beaucoup, Romain. Et j'adore en fait le lien entre l'histoire justement et le droit. C'est hyper important. Et tu l'as fait la dernière fois aussi. Tu as lu un texte. Je trouve ça hyper enrichissant puisqu'en fait on voit des développements de pensée qui appartiennent à un instant. Et ça nous permet en fait de faire des parallélismes et donc de faire des projections. Et par rapport au juridisme, c'est une réalité le juridisme. Je sais que, même si c'est pas en ces termes, certains sur l'espace me disent « Ah oui, c'est bon, toi et ton droit, tu nous saoules et tout. » Mais en réalité, c'est moi, quand j'ai travaillé à la fac, j'étais, puisque je suis diplômée en droit comparé, donc dans des universités qui ne sont pas que françaises, je me souviens avoir parlé d'américanisation du droit français et surtout dans le process en fait, alors que c'est pas du tout exportable chez nous. Par exemple, l'affirmative action, donc la class action, le fait d'être tous ensemble et d'aller voir un juge, ce n'est pas possible. Les juridictions ne sont pas les mêmes, la manière dont sont nommés les magistrats ne sont pas les mêmes. Enfin, il y a plein de choses qui sont incompatibles. Mais pour autant, dans l'idée, avec cette génération Startup Nation, qui est toujours en train finalement de craindre le procès, de comme quand vous les voyez partout sur sur cette plateforme, le fait de faire tout le temps des procès en diffamation ou d'aller menacer, alors qu'en fait c'est beaucoup de bruit et beaucoup de cloches, alors qu'il n'y a pas de son. Derrière, c'est souvent classé sans suite, parce que les juges ont tout à foutre, hein, je vous le dis. Et à part si vous êtes une grosse personnalité politique ou vraiment si vous arrivez à un truc genre physique et que donc le procureur se dise « Ok, c'est bon, on passe ». Pour l'instant, tout ce qui est au digital, c'est beaucoup de bruit. Mais c'est cette espèce, oui, de fascination pour la justice, pour le droit, pour faire valoir ses droits, pour faire des communiqués, pour... Moi, j'étais pas du tout pour l'affaire Candace Owens, qui est une blogueuse qui veut exister pour moi et faire de l'argent, pourquoi pas à la limite. Et puis parce que le fait que je l'ai déjà dit, ça m'intéresse pas ce qu'il fait avec sa femme. Mais pour autant, constater qu'il a pu faire avec ses avocats et des menaces, alors qu'il est président en exercice, en effet, c'est sa femme, quand bien même, et surtout des propositions financières exorbitantes, même si c'est sur ses deniers, pour que apparemment elle soit discrète en fait sur ce qu'elle sait ou ce qu'elle savait. Je cite à volontiers cet exemple puisque c'était une américaine. Ça me rappelle vraiment cette espèce de façon d'instrumentaliser le droit qui est très propre à notre époque et pas du tout à ce que tu peux expliquer, Romain. Et c'est pour ça que c'est intéressant pour moi. Il y a une réalité où en fait on veut vraiment mettre du droit partout et ça ne marche pas chez nous. Ça ne marche pas chez nous parce que, quand bien même vous diriez, ah oui, t'as violé mon droit de propriété, comme aux États-Unis par exemple, ou t'as fait ceci, enfin, le temps que vous trouviez un avocat, qu'il accepte de vous prendre, qu'il aille faire l'affaire, que le juge accepte. Oh là là. D'ailleurs, vous allez y laisser votre slip, hein, pardonnez-moi l'expression. Et puis en plus, si ça se trouve, ça va rien donner et vous allez être suspendu au délai pendant des plombes. Et tout ça pour dire que, là, ils instrumentalisent le droit pour se sauver eux-mêmes. Mais ça va peut-être leur exploser au visage. Parce que notamment d'un point de vue de la fédéralisation de l'Europe, en effet, ils veulent nous pousser. Mais je le redis une dernière fois, ne serait-ce qu'en droit constitutionnel comparé, un État fédéral, il faut vraiment un certain nombre de critères juridiques indispensables qui ne sont pas et ne seront pas réunis dans le cadre de l'UE actuelle. Parce que dans un système fédéral, première chose, la souveraineté, elle est partagée de manière verticale. État fédéral, entité fédérée. Pensez au Länder, pensez au canton. Et chacun a sa compétence normative propre garantie par la Constitution. Excusez-moi, où est la Constitution européenne? Dans l'Union européenne, il n'y a pas ce partage. Parce que chaque État est souverain. Et l'Union n'a pas de souveraineté propre. Elle a ce qu'on appelle des compétences déléguées. Je vous renvoie au TUE, c'est l'article 5. Donc il n'y a pas de souveraineté fédérale, parce qu'il n'y a pas de base constitutionnelle fédérale, parce qu'il n'y a pas de constitution, et donc il n'y a pas de fédération. La constitution fédérale, le pouvoir constituant suprême, n'importe quel état fédéral, il faut qu'il y ait une constitution unique et qu'elle ait été adoptée par un pouvoir constituant qui serait alors fédéral et qui serait donc supérieur aux constitutions de tous les états fédérés. Or, l'Union, elle n'a pas de constitution. Ce qu'elle a, c'est des traités internationaux qui sont signés par des états souverains, quote unquote, mais ces traités ne sont pas issus d'un pouvoir constituant. C'est des traités qui proviennent de négociations diplomatiques. Rien à voir. Il y avait eu donc un projet de constitution européenne en feu 2004, mais il n'y a eu aucun consensus, aucun zéro. Donc s'il n'y a pas de constitution, c'est impossible qu'il y ait une structure fédérale. Attention, remette à ton micro ouvert. Donc ça déjà, rideau. Autre chose, le pouvoir législatif central. Quand vous avez une fédération, vous avez un pouvoir législatif central qui va voter des lois qui sont directement applicables à tous les citoyens, quel que soit le domaine de compétences, enfin, en tout cas qui lui sont propres. Sauf qu'en dans l'UE, le pouvoir législatif, il est entre le Parlement européen, le Conseil, mais il faut qu'il y ait l'attribution des compétences qui sont décidées par les États. Donc le Parlement, il ne peut pas proposer des lois. Il n'a pas d'initiative législative. La Commission, oui. Mais elle-même, elle n'est pas issue d'un corps électoral souverain. Donc il n'y a pas de pouvoir législatif autonome de type fédéral. Ça, déjà, c'est mort. Et autre chose, et après je finirai là sur ces deux points-là, le gouvernement, il faut qu'il soit véritablement responsable devant un parlement souverain, dont je viens de vous dire qu'il n'existe pas. D'accord ? Dans l'État fédéral, le gouvernement central, il vient du parlement, il est responsable devant lui, et ça sur la base du mandat populaire, peuple. La Commission européenne, elle n'est pas élue directement. Elle est nommée par les États. Ensuite, elle est investie par un Parlement qui lui a des pouvoirs qui sont limités. Donc le Parlement, il peut la censurer, mais il ne peut pas la constituer librement comme dans un système parlementaire national. Donc il n'y a pas de responsabilité gouvernementale pleine. Donc il n'y a pas de système démocratique fédéral. Toujours pas. Et mon peuple, mon fameux peuple, démos unique. Si on veut un État fédéral, il faut qu'on se mette sur la base de l'existence d'un peuple politique commun. Et c'est ce peuple politique commun qui a la souveraineté. Eh oui. Mais l'Union européenne, elle ne repose absolument pas sur un démos unique, mais, et encore, on pourrait, sur une association de peuples. Les peuples des États membres. Il n'y a pas de langue officielle. Il n'y a pas de culture politique. Disons unifié, il n'y a pas de légitimité populaire unique, et le Parlement, il est élu sur des bases nationales avec des campagnes nationales. Donc s'il n'y a pas de peuple fédéral, il n'y a pas de légitimité fédérale. Donc il n'y a pas de fédération, c'est pas possible. Donc la conclusion juridique, un droit constitutionnel comparé européen, merveille des merveilles, super lourd à dire. Pas de souveraineté, pas de constitution, pas de pouvoir législatif autonome, pas de gouvernement responsable, pas de peuple. Donc, c'est absolument pas une fédération, c'est pas demain la veille que ça va devenir une fédération. C'est au mieux une OI renforcée, organisation internationale. Elle fonctionne par traité, et dans les traités, les États, c'est eux les maîtres en fait. Et c'est eux qui sont détenteurs de leur souveraineté à chacun. Donc quand il y a quelqu'un qui vient vous dire... Si, on va faire une fédération, le président Macron va devenir le président de la fédération. Toujours pas. Et oui, comme l'a exprimé Romain et Nicolas aussi, tout ça, ça vient du fait qu'il y a une opposition au changement, on va dire, stratosphérique, et on en avait parlé en space, du droit international, des institutions internationales, CIJ, CPJ, allez, autant, tout ça, je le dis en anglais, tout ça va sauter. Tout va sauter. Tout va être fait. Parce que on va fonctionner par bloc. Et je vous l'ai dit, c'est la fin du multilatéralisme. Il n'y a plus les 5 États qui votent leur droit de veto. Ça saute. C'est comme le business. One to one. C'est pour ça qu'il a fait venir l'autre dans le bureau ovale, que l'autre a insulté, que du coup ils se sont réinsultés, que du coup ils se sont encore réunis. Mais quand ils se réunissent comme ça à Paris pour dire « Ouh, vilain méchant Trump !» C'est pour faire genre « Regardez, nous on est encore plusieurs, on est multilatéraux, on est tous ensemble pour décider. » Sauf que US, BRICS, Russia et China ont dit « Non. » Et bien sûr, il y a l'Inde aussi, hein, n'oublions pas, donc des mastodontes, hein, contre quoi on ne peut rien faire. C'est fini. Nous, on négocie de one to one. Donc, l'Europe, chut, mais c'est déjà le cas, de toute façon. C'est juste que nous, la France, en tant que contributeur massif, on est pieds et poings liés. On est pieds et poings liés. On peut pas bouger. On est par terre. On attend juste, qu'on nous assigne le rôle qu'on va nous assigner, et puis c'est tout, quoi. Et toujours, bien entendu, comme l'ont signifié les deux intervenants précédents, brillamment, accroître la dette. Accroître. Encore plus d'argent imaginaire. C'est ça qui nous attend. Alors, je suis désolée, Walter est parti. Je vais donner la parole à Arwin. Ah si, Walter, tu reviens. Bon, c'est bien. Alors, je vais donner la parole tout de suite. Et après, ce sera Arwin, puis Héloïse. Vas-y, Walter. Pardon, fausse manif, c'est la latence. Tu vas pouvoir te réexprimer.
Allô?
Oui.
Oui, bonsoir.
Oui, on t'entend.
Oui, je ne peux que plus soir et oui, je suis absolument d'accord avec toi. Sur une précédente intervenante qui avait l'air extrêmement flippée, moi je tiens à la rassurer parce que tout ça n'est qu'une propagande organisée. Et le fer de lance de cette propagande, ça a été quand même, durant ces 3 années, la chaîne LCI, qui a été absolument en dessous de tout, qui a été véritablement, qui nous a tout fait en fait. Cette chaîne de TV nous a tout fait, c'est-à-dire elle nous a fait le copiage, ils ont copié-collé en fait, toutes les news, les soi-disant news des pires instituts néoconservateurs américains du type l'Institute for the Study of War de la clique Kagan, qui nous ont fait une propagande absolument incroyable de néoconservateurs américains. Et puis, ils nous ont fait également du révisionnisme avec des gens tels que Jean-François Colosimo, la vieille, comment elle s'appelle celle-là, la Ackerman, qui n'a toujours pas digéré les zones d'exclusion du tsar. Et puis, tous ces vieux traîne-sabres de l'armée française à la retraite, qui nous ont fait un véritable... comment dirais-je, Kriegsspiel, un véritable Kriegsspiel super vitine pendant 3 ans, c'était absolument incroyable. C'est-à-dire que ce sont des colonels ou des généraux français qui se réjouissaient de la fourniture de Panzer allemand Léopard à l'armée de Kiev, qui allait, soi-disant, enfoncer la ligne Surovikine, tel le général Guderian de la Deuxième Guerre mondiale. C'est vraiment une chaîne incroyable. Ils nous ont vraiment tout fait, quoi. Avec des vieux traîne-sabres, des révisionnistes, des pro-atlantistes, pro-néoconservateurs américains, enfin... C'est incroyable. Et je ne m'étonne pas que des gens soient stressés maintenant à cause d'un Macron soi-disant va-t-en-guerre, alors qu'il ne dispose d'une armée de terre que d'environ 80 000 hommes sans les réservistes bedonnants. 80 000 hommes là-dessus, vous enlevez évidemment l'encadrement, les officiers, les sous-offs et puis la logistique. Vous avez 40 000 bonhommes. 40 000 bonhommes divisés par 2 000 pertes sur le front, c'est ce que mangent les Russes au petit déjeuner. Ça fait même pas un mois de consommation, quoi. C'est un mois de petit déjeuner russe. Donc non, c'est ridicule. Et je tiens à rassurer cette dame qui avait l'air stressée. Non, on n'ira pas au front en Ukraine. Macron fait beaucoup de vent et LCI est une chaîne qui devrait être condamnée par l'ARCOM et véritablement éliminée.
Bien, merci. Merci Voltaire. Je pense que c'était pour Héloïse. C'est vrai que c'est important aussi qu'on se rassure les uns les autres. Il y a une réalité, c'est qu'il y a des choses qui sont dites de manière extrêmement violente dans les médias télévisuels. Moi, quand j'ai vu les encarts sur les 18-25 ans ou les 18-35 ans partant à la guerre, moi, ça m'a hyper choquée. Alors, je pense pas que l'ARCOM fasse quoi que ce soit, hein, parce que je pense que c'est prévu, mais tout ce que tu as dit est extrêmement juste. Et on avait parlé aussi des effectifs des armées, il y a deux spaces, je pense. Concrètement, oui, on n'a rien. Et de toute façon, enfin, Poutine a fait une déclaration, je sais plus où exactement ce que j'ai entendu, en expliquant qu'en fait, enfin, limite ça le faisait rire en fait de s'imaginer, enfin, jamais il viendra après la France. Voilà, c'est une réalité, donc pas d'inquiétude, mais merci. Alors,
Poutine a fait livrer par la Rosgardia, c'est-à-dire c'est une sorte, comment on appelle ça aux États-Unis, de l'armée étatique de réserve, a fait livrer un petit boîtier à l'ambassade de France avec des soldats de plomb à l'ambassade de France pour lui dire si tu veux jouer, ben joue plutôt avec ça, quoi.
On passe vraiment pour des branquignoles. Alors, juste une chose que je voulais dire aussi, c'est que dans notre armée vieillissante, en effet, nous avons beaucoup de généraux voies lactées, comme je le dis, c'est-à-dire ceux qui ont vraiment toutes les étoiles, vous savez, qui sont recasés dans des postes de l'administration, qui perçoivent leur retraite de généraux, plus un traitement de contractuel. Et en général, ça n'est pas un traitement de contractuel à 1 500 €, ça va bien au-delà. Voilà, et des primes. Donc ces gens nous coûtent beaucoup d'argent, encore une fois. Mais nous ne pouvons rien y faire pour l'instant, car sans volonté politique, on ne peut pas avancer. Voilà, alors, programme. Arwin, Héloïse, Stéphane, merci de raccourcir un peu vos interventions, de manière à ce que je puisse tout de même vous évoquer les fondements juridiques de la mobilisation générale et parler un peu de la MPM et rester dans mon timing de space. On fera la prochaine partie, enfin le reste, puisque c'était quand même un space assez dense, la semaine prochaine, je pense. Mais merci à tous, parce que c'est extrêmement intéressant, et merci de participer. Voilà. Salut Arwin.
Salut Ilou, comment vas-tu?
Ça va et toi?
Bah écoute, ça va, je t'avoue que je suis encore toujours très surpris de la réaction de
la haine.
Comme
j'en
je t'ai
ai
dit,
parlé en début space,
je sais, mais je suis arrivé juste à ce moment-là, je t'ai dit, je pense que les vapeurs de latex n'ont pas quitté leurs narines, ça leur déprise autant toujours les poils du nez.
Écoute, je vais essayer de faire court. Tu m'arrêtes si jamais tu penses que
Non, vas-y.
Moi, je voulais rebondir sur l'intervention de Romain. Il y a un petit texte que je voudrais vous lire, qui est un quatrième de couverture, qui est d'un livre de 2011. Était écrit par François David avec, et c'est vraiment une excellente référence, avec en préface l'historien Georges-Henri Soutou, vraiment un excellent historien, qui dit ceci. Donc ça parle de John Foster Dulles, hein, qui est un homme politique américain très très important et qui, vous allez voir, a une influence sur la création de l'Union européenne, notamment parce qu'on a parlé de Jean Monnet tout à l'heure, vous allez voir. Alors je vous lis. John Foster Dulles, 1888-1959, est un personnage clé de la montée en puissance des États-Unis au XXe siècle. Ce diplomate, avocat d'affaires, le mieux payé du monde, dirigeant des églises protestantes, petit-fils et neveu de secrétaire d'État, frère d'un dictateur de la CIA, en l'occurrence Allen Dulles, intervient au cœur des réseaux qui transforment les États-Unis en une superpuissance volontariste et extravertie. Théoricien et praticien de l'idéalisme wilsonien, Foster Dulles participe aux premières réussites transatlantiques, mais aussi aux grandes déchirures américano-européennes. Après avoir rédigé l'article 231 du traité de Versailles, de la responsabilité de l'Allemagne dans l'entrée de la guerre, il forge, 30 ans plus tard, et c'est là que c'est très intéressant, la grande réconciliation entre l'Allemagne et l'Occident en ancrant la RFA d'Adenauer au sein de l'Occident libéral. Apôtre par excellence de l'indépendance et de « dans l'interdépendance », c'est une... comment dire, c'est une expression consacrée, hein, je le souligne, hein, l'indépendance dans l'interdépendance. Foster Dulles veut répudier la souveraineté des États-nations pour mieux promouvoir le fédéralisme intégral sur le vieux continent. Chantre de la destinée manifeste et du messianisme américain, qu'on appelle aussi parfois pour les connaisseurs le jingoïsme, le secrétaire d'État du président Eisenhower de 1953 à sa mort en 1959 n'a pas seulement coalisé l'Occident aux pires heures de la guerre froide. Père de l'Europe, et j'insiste là-dessus, il a posé avec son ami Jean Monnet les fondements idéologiques de l'actuelle Union européenne. Voilà, ouvrage qui bénéficie du prix de l'Association des anciens potionnaires et amis de la Fondation Thiers. Donc c'est un petit ouvrage très sympa, bon, lisez-le ou pas, vous pouvez le trouver sur Amazon, hein, mais je tenais vraiment à vous lire ce quatrième de couverture parce qu'il résume très bien. Un fait très simple, c'est que quand on vous dit que Jean Monnet et Robert Schuman sont les pères de l'Europe, eh bien ça fait 3-4 mots et 3-4 mensonges. Puisqu'en réalité, bon, si vous connaissez Victor Hugo, vous savez que les États-Unis d'Europe, c'est une vieille idée. Eh bien, l'Europe unie, c'est une vieille idée qui a été mobilisée pour bénéficier aux ambitions américaines après la guerre. Hein. Marie-France Garraud, chez TADI en 2014 sur France 4, l'avait très bien dit. Les Américains, après la guerre, considèrent que l'Europe, les nations, c'est le bordel. Ils veulent mettre le couvert sur tout ça. Donc, ils disent, on va faire l'Europe unie. Bon, je vais pas vous refaire un récapitulatif des cours magistrales de François Asselineau. Mais voilà, si on vous dit Jean Monnet et Robert Schuman, père de l'Europe, répondez-leur non, pas du tout. Les pères de l'Europe, Dean Acheson, John Dulles, George Ball et George Kennan. Ce sont 4 Américains et 4 personnes qui avaient la ferme intention de nous enlever toute forme de souveraineté. Pour rebondir ce que tu disais tout à l'heure, Lilou, moi ça me fait penser à une vidéo du Cercle d'Aristote que j'avais vue qui s'intitulait « L'UE, un empire post-politique » avec en invité Max Foucault. Qui avait eu une formulation intéressante. Il avait dit l'Union européenne, c'est la réduction du champ démocratique. Et j'avais trouvé que c'était très vrai finalement. J'ai trouvé une espèce d'allégorie pour ça. Finalement, je ne sais pas si les gens ici voient ce que c'est qu'un pantographe. C'est un peu une espèce de machine à, comment dire, de machine à, je sais pas comment on pourrait qualifier ça, de polycopieur de la fin du 18e siècle, du tout début du 19e siècle, du tout début du 20e siècle. C'est-à-dire que vous aviez des bras articulés, vous mettiez plusieurs stylos à plumes dedans, et en écrivant une seule fois, vous aviez fait plusieurs copies. Eh bien, l'Union européenne, ça sert à ça, c'est-à-dire à mettre tous les pays au pas, sans créer pour autant une institution dotée de sa propre souveraineté. Ça sert à neutraliser les souverainetés sans créer un autre objet politique réel. On peut dire, d'une certaine manière, que l'Union européenne, c'est la mort du politique, puisqu'on voit bien qu'on a le gouvernement qui est remplacé par la gouvernance. Alors certes, il y a peu de lettres qui séparent ces deux mots, mais... le diable se cache dans des détails, les détails ont leur importance. Et donc finalement, voilà, on est mis sur pilote automatique, et encore une fois, pour rebondir sur ce que tu avais dit, à État fédéral, eh bien, budget fédéral et transfert massif des États les plus pauvres des États les plus riches vers les États les plus pauvres. Et Jacques Sapir, si vous ne connaissez pas, je vous invite instamment à vous abonner à ce grand monsieur qui, en plus d'être un économiste brillant, est un historien extraordinaire. Pour les gens que ça intéresserait, il avait notamment écrit en association avec d'autres historiens une œuvre d'Uchronie où la France continuait le combat pendant la Seconde Guerre mondiale parce que le gouvernement était déplacé. Alors je sais plus si c'était à Bordeaux ou en Algérie, mais c'était très intéressant. Vous pouvez même trouver les BD à la FNAC. Bref, Jacques Sapir avait calculé avec d'autres économistes que pour l'Allemagne, par exemple, un véritable budget, budget fédéral européen, ça demanderait que l'Allemagne sacrifie 8 à 12% de son PIB. Donc c'est non seulement politiquement et économiquement ni faisable ni acceptable. Donc en fait, on va rester sur cette espèce de c'est ça, de cote mal taillée, de chimère au sens propre et au sens figuré, hein, qui peut ni vraiment voler ni vraiment marcher. Donc on est vraiment sur un objet politique, j'ai pas envie de dire non identifié, mais qui est pas fait pour fonctionner. C'est juste fait pour être un foutu boulet. Donc voilà, je redonne, hein, juste mes références. Donc le titre de l'ouvrage que j'ai mentionné, c'est, excusez-moi, je l'avais sur la petite page Amazon. Tout simplement, John Foster Dulles, secrétaire d'État Cold Warrior et père de l'Europe, de François David, avec la préface de Georges-Henri Soutou. Et de Georges-Henri Soutou, je vous invite aussi à lire son ouvrage plus récent, Europa, où il disait quelque chose de très intéressant. Tous les anciens gaullistes et résistants étaient contre la création de l'Europe, et tous les anciens collabos et autres gens... disons, toute autre personne de toutes les autres personnes de qualité, dirons-nous, étaient vraiment en faveur de ce beau projet. Donc voilà, c'était un petit peu ce que j'avais à dire, mais je pense que c'est des petits détails qu'il est intéressant de connaître pour briller dans les dîners à défaut d'autre chose.
Ah oui, voilà, si je peux me permettre une phrase très courte de 1962 du général de Gaulle. L'Europe intégrée, comme on dit, où il n'y aurait pas de politique,
oui,
se mettra à dépendre de quelqu'un du dehors et qui, lui, en aurait une. Il y en aurait peut-être un fédérateur, oui, mais qui, lui, ne serait pas européen.
Le fédérateur extérieur. Oui, oui.
Le fédérateur extérieur.
Voilà, c'était tout pour moi, mais je souhaitais mettre ces petites références à disposition.
Non, mais c'est super. Merci d'avoir donné toutes ces références. J'insiste aussi, le space est enregistré. Revenez sur les interventions de Nicolas, de Romain, Darwin, même aussi Stéphane et Walter qui est parti, je pense. C'est hyper important. Vous avez des mines d'informations. Allez lire, allez vous renseigner. Il y a aussi beaucoup de termes que Arwin a utilisés qui sont extrêmement justes, en fait, d'un point de vue de la logistique. C'est-à-dire que on est conscient en fait de ce qui est en train de se passer. On parle plus non plus, si vous avez noté, de toute façon t'as ton micro ouvert Arwin, on parle plus non plus de Frexit, on n'est plus dans cette litanie-là en fait. On est déjà post-Europe, on vit un moment d'histoire, il faut pas avoir peur forcément, c'est pas question de ça, c'est question que quand vous avez des personnes comme ça qui viennent vous faire des redites de lectures intéressantes, de pensées, c'est hyper enrichissant parce que vous pouvez structurer votre réflexion et vous-même vous faire votre propre idée en vous disant que oui, ils sont au bord là, ils attendent, ils sont là, ils se disent comment va-t-on survivre nous qui avons l'habitude des privilèges, qui avons l'habitude de l'exercice du pouvoir. Mais ça ne se passera pas comme ça. Et c'est ça qui est hyper intéressant, je trouve, personnellement, dans notre période, en termes de temps, qui joue aussi, et c'est Nicolas qui en avait parlé, avec l'intelligence artificielle et le digital, nous avons le pouvoir de faire basculer des opinions, et les vagues d'opinions peuvent être écrasantes. Et ça peut donc faire des influences. Et je vous le dis, je l'ai déjà exprimé des tas de fois, mais vraiment, on n'en est plus au stade où on va exister. On n'existe pas. Notre pays n'est pas dans la négo. Et même si l'Allemagne en ce moment joue avec les usines Volkswagen, en fait, ils jouent à faire peur. Je ne vous dis pas qu'ils iront pas au bout. Mais simplement, vous devez vous armer de courage. Et quand on entend ces interventions brillantes, on se rend compte qu'on a fait un cheminement. Et moi, personnellement, vous savez, je trouve que c'est hyper intéressant de vivre ce moment d'histoire et de pouvoir être là à la reconstruction. Et on ne laissera pas nos concitoyens partir à la guerre. On ne laissera pas notre jeune génération se faire sacrifier. En tout cas, personnellement, c'est hors de question. La pandémie, c'est une chose. Là, c'est non. C'est non, c'est non, c'est non. Et c'est là où vous devez vous réveiller en vous pensant à votre patriotisme et en faisant fi de tout le reste. Et s'il faut aller frapper à la porte des députés pour les secouer et leur dire « bon, c'est maintenant », peut-être qu'il faudra le faire. Pacifiquement, hein, je vous entends. Mais il va falloir vous armer parce que tout ce que vous avez connu jusqu'à présent, ça va être complètement ébranlé. Puisqu'ils vont donc là, ils touchent à l'épargne, et ils vont toucher. Alors j'avais dit l'épargne, ce sera soit sur la base du volontariat, soit de par obligation. Je pense vraisemblablement que ce sera par obligation, de ce que j'ai pu comprendre. Voilà. Je fais passer la parole à Héloïse, Stéphane, et après ce sera Bob.
Héloïse. Alors moi, je vais revenir un petit peu en arrière par rapport à Lilou, à ce que tu disais. Concernant, bon, il n'y a pas de constitution européenne, bon, il y a une commission. Et il faut savoir que la commission, elle a le pouvoir aussi d'orienter pour certaines applications de loi, pour faire voter les pays membres, et a la possibilité, hein, les technocrates de Bruxelles ont la possibilité d'orienter dans un sens, ou de rejeter, enfin, ils font leur petite popote, leur petite cuisine technocratique, et ils nous imposent des lois. Alors après, comme tu disais, au niveau européen, ok, mais c'est après au niveau des pays, parce que la France a le don de, par exemple, ils prennent une loi, on impose une loi, l'Europe demande aux pays membres de faire la loi dans leur propre pays, mais la France rajoute toujours un petit plus pour nous asservir encore plus, pour être les meilleurs élèves de l'Europe, et pour nous enquiquiner le peuple un petit peu plus, mais il y a toujours un petit plus. Après, je voulais dire aussi une chose, j'ai entendu le dernier discours de Zelensky en conférence, en visioconférence de Norvège, lors de la dernière réunion à Bruxelles, là. Et il y a quelque chose quand même qui m'a interpellée, il a dit cette phrase qui pour moi n'est pas anodine. Zelensky a dit qu'il n'y aura pas d'accord de paix, enfin d'accord avec la Russie, tant que la Russie n'aura pas libéré les territoires occupés, à savoir que l'Ukraine récupère la totalité de son intégrité territoriale. Donc ce qui veut dire sous-entendu, moi j'ai compris ça, qu'il remet sur le tapis l'histoire du Donbass, de la Crimée, enfin de tout ce que les Russes ont conquis. Puisqu'il dit bien, Zelensky, dans son dernier discours de la Norvège, il dit bien, il n'y aura pas d'accord tant que les soldats russes seront encore sur le territoire ukrainien. Donc je pense qu'on comprend qui veut, quoi. Là, on comprend la démarche de Zelensky. Et puis il y a aussi autre chose, je voulais vous dire. Si on maintient un conflit là-bas en Ukraine, bah, ça met le holà. Ça met le holà au fait que l'Amérique ne pourra pas faire l'extraction des métaux rares. Parce que tant qu'il y a le conflit, effectivement, il n'y aura pas de possibilité d'extraction américaine en territoire ukrainien. Donc c'est aussi faire barrage à la possibilité des États-Unis de récupérer ces métaux. Il y a ça aussi, je pense. Et aussi, je voulais dire par rapport à la Russie, ce que Poutine a dit, que Poutine, quand on voit l'espace géographique énorme, l'espace territoire hein, géographique de la Russie, Poutine a bien dit qu'il a suffisamment de richesses dans son pays pour vouloir prendre les métaux rares en Ukraine. Et par contre, le côté ouest, le côté européen chez nous, ce serait plutôt nous qui voudrions aussi récupérer ces métaux rares plutôt que les Russes qui en ont chez eux et qui n'ont pas besoin de ça. Donc je pense que maintenir le conflit, c'est aussi pour empêcher les États-Unis de faire cet accord avec Zelensky et d'exploiter ces métaux. Métaux, j'ai entendu que ces métaux, certains métaux, étaient absolument indispensables pour l'armée américaine. Alors là, techniquement, je n'ai pas plus de détails, Donc pour eux, c'est très important d'avoir ces métaux. Et puis voilà, donc je pense que pour moi, le côté anxiogène ne vient pas forcément de Poutine, même pas de Macron, mais plutôt de Zelensky, qui joue, lui par contre, un jeu extrêmement dangereux, et il souffle le chaud et le froid sans arrêt. Et moi, je pense que les dernières paroles qu'il a prononcées en Norvège sont quand même assez explicites. C'est-à-dire, il veut récupérer intégralement son territoire, le territoire de l'Ukraine. C'est ce qu'il a dit. Donc moi, c'est ça que j'ai compris. Voilà. Si je me trompe, eh ben, qu'on me le dise, il n'y a pas de problème.
Non, non, tu te trompes pas, Héloïse. Enfin, en tout cas, globalement, c'est juste, ça ressort des propos des uns et des autres. Alors, il y a une chose, c'est que Trump, moi, je dirais qu'il y a deux choses que je dis toujours. C'est que d'abord que Poutine, c'est pas un enfant de cœur, et on n'a pas à être fan de lui. Ça, c'est le premier point. C'est pas un sauveur non plus. Voilà.
De personne en particulier.
Ouais, non, mais non, voilà, parce qu'on entend souvent des pro-Poutine, pro-Trump, rien à voir. Et que Trump, en fait, il est là pour éponger les dettes colossales des États-Unis et pour faire payer les autres pour ramener le fric aux États-Unis. Bon, voilà, c'est tout. Hein. Faut arrêter de croire qu'il va faire changer rien du tout. Il veut du blé et il prend à la gorge tout ce qu'il peut. Alors, du coup, là, dans cette espèce de négociation, bien sûr que Zelensky joue la montre, il a raison, puisque lui-même, il faut qu'il sauve sa tête, hein, déjà, avant qu'ils en mettent une ou un autre, je penche pour une, c'est en cours, et parce qu'il est toujours maintenu hein, au pouvoir, hein, je rappelle, hein, Zelensky, et Poutine, en fait, c'est lui le gagnant, hein, c'est lui le maître des clés, c'est lui le maître des horloges, c'est lui le maître du temps. Quand on entend que les sanctions ont porté leurs fruits, c'est absolument faux. C'est absolument faux. Ils vont très bien en Russie. Leur économie va très bien. Hein. Celui qui c'est l'écrivain pornographique qui nous servait de ministre des Finances, qui s'est barré en Suisse pour se protéger, il raconte absolument n'importe quoi. Ils vont très très bien. Ils ont extrêmement avancé sur des positions très stratégiques en Ukraine. Oui, il y a eu une invasion, oui, c'est vrai. Il y a eu le Donbass, oui, c'est vrai. Il y a aussi un peu une vieille historique avec les États-Unis là-dessus, hein, de vieilles rancœurs qui datent d'avant. Hein. Mais tout ça pour dire que, en fait, on a l'impression que c'est les grands sauveurs. C'est absolument pas les grands sauveurs. Il y en a un, il veut de l'argent. Il y a l'autre qui veut sauver ses fesses parce qu'il n'a pas envie de refaire du piano avec vous savez quoi. Et il y a l'autre, le russe, il n'en a rien à faire, il regarde, il mange du pop-corn. Et de toute façon, il est back-upé par les Chinois. Donc de toute façon, on est mort. Et oui, je parle parce que j'arrive à la fin du space, alors je suis plus cool, mais il y a du lithium, batterie pour les véhicules électriques, il y a du nickel, il y a du cobalt, il y a du manganèse, il y a du titane. Et puis, pour tous les composants électriques de la défense, de l'armement, bah oui, il y a des terres rares. Donc oui, on veut en plus, on veut ramener nous. Pourquoi? Parce que c'est indispensable pour la souveraineté industrielle. Donc donnez-nous, voilà. Et pour aussi réduire les montres à la Chine. Parce que je rappelle, c'est la Chine qui contrôle l'essentiel du marché mondial de raffinage des terres rares, c'est-à-dire là où il y a les métaux. Hein. Donc oui. Donc là, ils veulent se sécuriser, comme ça on n'est plus obligé d'être face à la Chine, à la Russie. C'est les États-Unis, mais c'est aussi nous. Hein. Voilà. Hein. Il faut qu'on diversifie en fait nos sources d'approvisionnement pour plus être à la merci de pays qui sont censés être rivaux, en fait. Hein. Donc si on contrôle et on sécurise les ressources d'Ukraine, on réduit la marge de manœuvre stratégique de la Russie et de la Chine. Soit dit en passant, qu'en ce qui concerne les batteries de lithium, nous avions des domaines français qui étaient capables de produire, mais bien sûr, nous avons fait comme si nous n'avions rien. Voilà. Et le potentiel économique, il est énorme. Parce que je ne sais pas si vous savez, souvent on appelle l'Ukraine le coffre-fort minéral de l'Europe. Voilà. Et que donc, avant la guerre, il y avait déjà des investisseurs étrangers qui commençaient à s'y intéresser, pour citer Westinghouse. C'est une société américaine. Il y avait aussi des firmes occidentales parce que ce qu'ils voulaient, en fait, c'est, attention ton micro, voilà, c'est des droits d'exploitation, d'extraction et des partenariats énergétiques. Et je vous ai refait l'histoire, je crois, il y a deux spaces, je vous ai expliqué, en fait, que dès l'instant que l'Ukraine est entrée en guerre, tout de suite, il y a une demande pour l'intégrer à l'OTAN. Tout de suite, on a fait les demandes pour l'intégrer. Tout de suite, on a fait tout. On a tout de suite fait les documents. Donc, tout était prévu. Les textes étaient là. Enfin, voilà. Donc, Oui, ils veulent reconstruire l'Ukraine, mais ils veulent faire avec l'influence occidentale. Mais il y a les States qui veulent aussi récupérer leur part de marché. Puis c'est pour ça qu'ils nous ont fait « back off, enlevez-vous de là, on va pas négo avec vous les gars ». Nous, on va directement speak avec la Russie et la Chine, et puis on va récupérer l'Ukraine, et c'est tout. Donc là, il montre les dents, et c'est difficile, en fait, hein, pour Trump, hein, ce qu'il vit là, faut pas croire. Hein. Mais la Russie, eux, ils sont foutent, ils sont gagnants-gagnants, ils avancent toujours dans les terres intérieures. Et ça, c'est, enfin, ce sont des informations qui sont partout. Hein. C'est pas une question d'être pro-russe, anti-Europe, blablabla, rien à voir, en fait. C'est juste que c'est la réalité. Voilà. Donc tu as raison, Héloïse. Et là, on tente de montrer les dents pour faire comme si en fait on était part à quelque chose dont on avait. En fait, ils nous ghostent en fait. Ils font comme si on n'existait pas. C'est comme un amoureux qui envoie des SMS. Vous lui mettez des remis, mais vous répondez pas en fait. Donc il voit vu, et vous répondez pas. Voilà. Bah c'est ce qui se passe pour Macron en fait. Je sais pas si vous avez vu Zelensky qui reçoit le coup de fil de Macron là alors qu'il est en conférence de presse. Tout ça c'est vraiment plein de battements d'ailes en fait alors qu'on est on est pris dans le pétrole. Voilà. Hein. Et puis bientôt ils vont nous mettre les plumes. Je devrais pas dire ça. Bon allez Stéphane rapidement et après Bob.
Merci très rapidement. Tout d'abord c'était pas du pétrole, c'est du goudron avec les plumes. Alors je vais passer un petit coucou à Bob qui va parler juste après moi, que j'apprécie beaucoup.
Dans mon propre space.
Eh oui.
Je te salue Stéphane.
Merci Bob, j'aime beaucoup, hein, j'aime beaucoup le suivre aussi. Alors regarde, tout d'abord on parlait de la fédéralisation de l'Europe. N'oubliez pas qu'avant Schuman et avant j'ai oublié le nom de l'autre. Attends, c'était Schuman et bref. Et à part tous les Américains qui sont intervenus également, il y avait quelqu'un d'autre qui voulait fédéraliser l'Europe, et son prénom commençait par Adolphe. Donc, à retenir quand même, hein, quelqu'un d'autre qui voulait fédéraliser de force toute l'Europe. Alors, l'argent, c'est le nerf de la guerre. C'est une expression qui est très, très, très bien connue. Et c'est pour ça que, effectivement, je pense que Macron veut quand même rentrer en guerre. Pour les mêmes raisons que Zelensky. En fait, tant que Zelensky, et excusez-moi le terme, hein, il en a absolument rien à foutre de sa population, qu'ils aillent se faire massacrer sur le champ de bataille et au front, tant que lui va recevoir des fonds et de l'argent, il va essayer de continuer la guerre le plus loin possible. Je pense que ça va être exactement la même chose pour Macron. Tant que ça peut lui permettre de gagner un troisième mandat éventuel et surtout de faire rentrer de l'argent entre guillemets à ses patrons ou à ses maîtres, c'est comme ça que je les appelle, il sera là en place pour essayer de déclencher une guerre. Il fera tout pour et voilà. Je regarderai également ce que Arwin avait dit tout à l'heure concernant les noms des personnes des quatre Américains. Je serais curieux quand même de voir si Schuman et allez, c'est qui l'autre encore, on en avait parlé tout à l'heure.
Alors je vais redonner les quatre noms si tu veux. Donc il s'agit
non, d'abord
de
le français. Il y avait Schuman.
Ah Robert Schuman. Ah Jean Monnet,
pardon, excuse-moi. Donc oui, il y a Monnet, Schuman et les quatre noms dont tu as parlé. Je serais curieux quand même, je vais faire des recherches juste pour savoir hein, par rapport à ma mentalité si ces gens-là faisaient partie d'une loge. Voilà, juste à titre d'information. Ce qui ne m'étonnerait pas. Je vais essayer de vérifier.
Ah non,
si
on va pas
trouve.
Commencer le triptyque ce soir. Hein.
Non. J'ai dit à titre personnel.
Mais puisque tu parlais 30 secondes, hein, très rapidement, puisque tu parlais de l'Allemagne tout à l'heure, tu regardes projet Neu Europa, donc qui était le projet en gros allemand d'unification d'Europe pendant la Seconde Guerre mondiale.
C'est ça.
Et tu as eu cette exposition absolument extraordinaire au Grand Palais 6 juin 1941, une exposition qui s'appelait La France européenne. Tu peux retrouver des photos et même des vidéos de l'époque. Ça peut se trouver sur le site de l'INA. Donc il y avait vraiment les autorités d'occupation allemande aux côtés du gouvernement français de l'époque. Et alors t'avais des stands un petit peu, enfin tout vraiment divers et variés, des petits trains, tout ça machin. Et puis on disait voilà, ça ce sera l'Europe de demain quand on aura écrasé la menace bolchevique.
Donc c'est ça, j'ai pas tort. Hitler voulait absolument fédéraliser déjà l'Europe, mais ça tombe bien.
Oui, sous la botte de l'Allemagne. Sous la botte de l'Allemagne, mais oui, d'une certaine manière. Enfin bon, le projet pour la France, hein, c'était quand même qu'on devienne un parc d'attractions géant. Donc bon, c'était pas.
Bref, je rends la parole, mais donc j'ai mis mes sources en commentaire, hein, si tu vas chercher, pas en bulle, mais dans les conversations. J'ai déjà mis des sources.
Je vais aller regarder. J'ai vraiment fini, mais en gros, l'argent, c'est le nerf de la guerre, et tant qu'il y aura de l'argent à faire entrer dans le complexe militaro, l'industrie militaire et dans la reconstruction également, ben tant que ce sera le cas. Je pense que Macron, lui aussi, n'en a rien à foutre des Français, même s'il les met sur le front, pour lui, c'est de la chair à canon. Ces gens-là qui veulent mettre, comme l'Angleterre également, qui veulent déclencher des guerres, encore une fois, vous savez ce que c'est d'une guerre, hein. Une guerre, ce sont des gens qui se tuent, mais qui ne se connaissent pas, au profit des gens qui, eux, se connaissent, mais ne se tuent pas. Donc, des gens comme Steimer, Macron et compagnie, n'iront pas en guerre, mais ils en auront absolument rien à foutre d'envoyer leur population se faire déchiqueter tant que l'argent rentrera. J'ai fini, merci Lily.
Oh non, merci à toi. Oui, bien sûr, c'est tout à fait ça. De toute façon, c'est nous sommes tous de la chair à canon. Et oui, Zelensky a sacrifié grande partie du peuple ukrainien. Et on parle très peu des Ukrainiens, on parle très peu des femmes enceintes, des jeunes enfants, 18 ans, envoyés dans des tranchées, des trucs horribles. Et c'est important de le mentionner. Voilà, alors, vas-y Bob.
Bonjour à tous. Bonjour. Je peux poser une question avant. J'aimerais. C'est quand les Space en anglais? Parce que il y a Girl, celle qui habite au Canada, et j'aimerais bien savoir quand pour la voir quoi.
Katie.
Voilà.
C'est les Space en anglais, c'est le mardi.
C'est le mardi.
Voilà.
Très bien.
Mardi soir à partir de 9h30. Voilà.
Merci Bob. Voilà. Et pour Stéphane, je vais faire une petite blague à Stéphane. Stéphane, sache que sur l'Ukraine, tu as fait de la chonara et c'est pas bien. Voilà, je tiens à te le préciser parce que hein, donc c'est pas bien de faire ça. je plaisante. Non, moi je voulais intervenir sur toujours et encore le réarmement. Hein. Moi c'est un truc qui m'intéresse, surtout en France. Alors sache Lilou que nous allons la fonderie de Tarbes en fait va multiplier en fait les usines de production. Donc on va rouvrir 3 usines de production. Une qui sera dans le nord de la France, à côté de Saint-Omer, une autre en Bretagne, et là il y en a une autre qui est en train de se décider pour le centre de la France, peut-être la Loire. Ouais, c'est encore à définir actuellement. Donc en tout, ça va créer 150 emplois pour les trois entreprises. Il faut savoir que les fonderies de Tarbes, elles ont été sauvées in extremis. Les effectifs avant la guerre en Ukraine, c'était 20. Employés aux fonderies de Tarbes, actuellement ils sont 80. Et on a des carnets de commandes qui sont pleins jusqu'en 2040. Donc on est relativement bien. Même si la guerre en Ukraine s'arrête, on a quand même les carnets de commandes pleins. Pareil pour notamment Naval Group. Naval Group va rouvrir deux chaînes de montage. L'État leur a notifié en fait une commande ferme avant 2030. On va porter en fait actuellement nous avons 14 frégates dans notre armée. En 2030, nous aurons 30 frégates. Donc il y a une commande ferme qui a été passée de 16 frégates. Donc on a quand même des contrats relativement intéressants. Et je le sais, plus ou moins, c'est de la spéculation pour l'instant. Mais tu vois, ça parle sur certains bons comptes Telegram, notamment des comptes sûrs. Et la France est notifiée avec Dassault. D'ici 2 mois, ils vont se rendre au Canada pour présenter un devis à la place du F-35. Donc les Français, en gros, on est les meilleurs, on est bien placés. Pourquoi? Parce que le Gripen suédois, il y a des pièces américaines dessus. Or, le seul avion après le F-35 qui est totalement autonome, actuellement sur le marché, si on sort les Russes, ce sont les Français. C'est-à-dire que même les Russes sur leurs avions, ils ont des pièces en gros de chez Safran. Ou alors de chez Thales. Là, leur nouveau Sukhoi qu'ils ont, les séries qu'ils ont, pour la plupart, c'est des pièces de chez Safran, ou des pièces en gros de chez Thales. Donc les seuls avions vraiment qui sont souverains, c'est les avions américains et les avions français. Donc actuellement, on a toutes nos chances, et on a un autre contrat en cours, là, les Indiens, probablement, on pourrait passer un très gros contrat avec les Indiens. Donc là, en avril, on part signer le contrat avec les Rafales, un contrat à 9 milliards, plus un autre contrat, probablement avec des Scorpène. Donc ils pourraient nous commander 12 Scorpène. Donc pour un contrat de 35 milliards d'euros. Donc voilà. Sachez que actuellement, comme j'avais dit à Lilou précédemment dans d'autres spaces, en fait Macron, ce qu'il veut pas expliquer aux Français, moi je suis, hein, ce qu'il veut pas expliquer aux Français, c'est que le réarmement du pays passera par l'armée de terre, parce que l'armée de l'air, on n'a pas besoin de mettre de l'argent dedans, c'est là où on a mis le plus d'argent. C'est-à-dire sur les 20 dernières années, là où on a mis le plus d'argent, ça a été la marine et l'aviation, au détriment en gros de l'armée de terre. Donc l'armée de terre actuellement, et je suis assez content parce que les plus gros spécialistes, ils en parlent, notamment c'était dans les manuels, dans les écoles de guerre, ça veut dire que notre armée, elle est prévue pour des terrains du Moyen-Orient ou d'Afrique subsaharienne. Là, on peut tenir une guerre de haute intensité. Si demain, il y a une guerre de haute intensité qui démarre en Afrique ou au Moyen-Orient ou au Proche-Orient, la France, elle est capable de mener cette guerre parce qu'elle a le matériel adéquat. Or, là, actuellement, on n'a pas de matériel adéquat. Je t'enverrai, Lilou, j'ai un graphique avec le recensement de tous les véhicules qu'on a dans notre armée, et tu remarqueras que on a 14 000 véhicules à roues, en tout genre, blindés ou non blindés, pour l'armée de terre, et on a 1200 véhicules à chenilles. Ça te laisse imaginer que demain, en gros, tu ne peux pas mener la guerre, en gros, à l'Est, parce que le matériel qu'on avait conçu post-guerre froide n'est pas le même matériel qu'on a conçu post-année 2000. On a vraiment, et les généraux maintenant ils en parlent, prenez le Jaguar, ils le disent, hein, c'est pas un blindé, hein. C'est un véhicule d'accompagnement d'infanterie, c'est un VBL. C'est un VBL un peu plus armé, mais on a troqué un canon de 105 mm contre un canon de 40 mm. Donc on a une armée qui est, voilà, pourquoi ? Parce que, pour tirer sur un, on a pensé la guerre comme ça, pour aller tirer sur un pick-up, pas besoin d'avoir un canon de 105 ou des choses comme ça, avec un canon de 40 mm et quelques accompagnements d'Aquéron, donc des missiles anti-char, on peut largement en fait pallier. Or voilà, c'est pour ça que notre armée, elle n'est pas du tout conçue pour l'Est. C'est pour ça que Macron, faut pas avoir peur de ça. Moi j'ai pas peur, hein. Et le partage de l'arme nucléaire, moi je n'y crois pas un seul instant. D'ailleurs, je sais pas si tu as regardé Hubert Védrine qui est passé chez Apolline de Malherbe, je crois qu'il y a une petite semaine. C'était assez posé et assez clair réellement dans ce qu'il expliquait. Lui, par exemple, Hubert Védrine est farouchement opposé à ce qu'on partage en gros le feu nucléaire. Il disait aux États-Unis, c'est un seul pays qui décide en gros d'actionner la bombe. C'est une seule personne. C'est pas un collège de personnes qui vont se réunir pour aller tirer une bombe. Qui dit en France, si on est une puissance nucléaire, c'est pas pour rien. Qu'on peut pas partager le bouton comme ça, c'est un truc qui est... Et il le disait bien, t'as 195 pays dans le monde, on n'est que 9 à avoir la bombe. Les autres, ils l'ont pas. Donc c'est pour ça que c'est pas... Puis c'est pareil, quand il y a ces propagandes de part et d'autre qui disent la bombe, on peut la lancer. Alors ça, Poutine, pour le coup, il le sait. Il sait qu'en Europe, les peuples européens, surtout de l'Ouest, se chient dessus quand on parle de la bombe. Ils ont peur. Donc il joue sur ces peurs-là, et ça marche. Parce qu'on voit beaucoup de gens qui disent « Oui, mais il a la bombe. » Oui, mais toi aussi, tu l'as la bombe. Donc c'est pas un argument. Et un pays qui a une puissance nucléaire, c'est un jeu, et c'est le mépriser de penser que lui, il va jeter une bombe sur un pays qui est armé avec le feu nucléaire, ou comme les chefs d'État pensent que ce type-là, entre autres, demain, il attaquera, en gros, un pays de l'OTAN. Voilà. Donc c'est pour ça que c'est de la fumisterie. Voilà. Moi, je crois pas un seul instant que Vladimir Poutine, qu'il prenne la Moldavie demain ou la Géorgie, c'est probable. Oui, c'est probable.
Oui.
Mais qu'il pose un pied dans un pays de l'OTAN, il sait très bien que c'est sa mort assurée. On peut jouer au truc. Il sait que les armées occidentales, nous, on sait faire la guerre. Et on n'est pas les Ukrainiens.
Mais attends, mais on n'a pas les moyens, tu rigoles ou quoi?
Non, mais si.
On tient que dalle.
Mais demain, s'il attaque un pays de l'OTAN, tu lui détruis. Les Américains lui avaient dit. Comment ça s'appelle? Et les Anglais. Ils lui avaient dit, s'il y a un pays de l'OTAN qui est attaqué, la flotte en mer Noire n'existe plus. Donc toute la flotte en mer Noire, elle est complètement détruite.
Bob, personne ne peut aller contre la Russie, on tient pas un mois, et en plus tout le monde est mort.
Non, moi je suis pas d'accord avec toi,
Bah, d'après les effectifs et d'après les décisions, en tout cas la doctrine de l'armée, pour eux, on tient pas un mois. Hein. Donc après, on
peut faire la guerre. Ça c'était vrai il y a encore 3 ans, mais ça l'est plus maintenant.
Ouais, pour des dernières choses que j'ai lues, je bouge pas de ma position et je pense pas qu'on soit en mesure de menacer la Russie qui nous terrasserait. Hein. Soyons clairs. Moi, je trouve ça toujours hypocrite en fait de venir vouloir dire on va faire la guerre alors que pendant des décennies le budget de... Allez, je veux dire, pendant les tranches de 5 ans, le budget de l'armement, de la défense était vraiment ras des pâquerettes. Et le budget pour l'armement et pour les fonctionnaires militaires, et voilà. Hein. En plus, alors sur l'arme nucléaire, je tiens à rappeler quand même que la dissuasion nucléaire, c'est une compétence souveraine nationale, exclusive. Il n'y a pas du tout d'histoire de « je partage ». Tout ça, c'est mort. Vous oubliez. Il n'y a aucun article de la Constitution qui traite directement de cette situation, c'est vrai. Donc en pratique, c'est le président qui est le seul décideur de l'emploi de l'arme nucléaire ou non.
Il y a une chaîne de commandement. Tu as une chaîne de commandement de 12 personnes.
Non, mais il y a toujours. Ok, je le sais très bien. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'à la base, c'est un pouvoir personnel sans contre-saint. Après, oui, il y a une chaîne de commandement, comme pour toutes les décisions, même pour les décisions simples de masse salariale de l'armée. Il y a une chaîne de commandement. C'est classique dans l'administration. On ne prend pas les décisions seules. Voilà, ça de base. Mais
et y compris, gros, parce que les gens, ils pourraient penser que dans les pays qui peuvent être classés comme dictatoriales, y compris pour la Corée du Nord, eux, bon, c'est là où il y a le moins, il y a 6 personnes, mais pour la Russie, par exemple, c'est l'équivalent des États-Unis, c'est une chaîne de commandement de 35 personnes. Et s'il y a une de ces personnes dans cette chaîne de commandement qui donne en fait un veto, alors le président, il ne peut pas tirer la bombe comme ça, il est obligé de passer par une autre commission en rapport, en fait. Donc c'est vraiment, c'est bien fait, pour le coup.
Non, c'est bien fait, mais en attendant, il ne peut pas la donner aux autres. C'est ça que je voulais dire. Après, on va dire l'administration interne, c'est autre chose, mais il peut pas, ça, rassurez-vous, c'est notre arme nucléaire, c'est pour les intérêts vitaux de la France. Voilà.
Et puis Dieu est parfait, donc une puissance nucléaire est parfaite, et par essence, elle ne peut pas partager une chose qui est parfaite. Pardon.
C'est parce que t'es Bob Dena, je te laisse.
Ah, excuse-moi, je t'ai coupé, c'est vrai, j'ai fait du mansplaining.
Donc ni l'OTAN, ni l'UE, ni aucun État allié ne peut avoir un mot à dire sur notre bouton nucléaire. Hein, voilà. Alors oui, c'est vrai que dans l'OTAN, il y a ce qu'on appelle, pour certains pays, je crois que c'est Allemagne, Belgique, Italie, Pays-Bas, et je crois qu'il y a la Turquie aussi, ils ont ce qu'on appelle le nuclear sharing avec les États-Unis. Ils ont des bombes, mais ça, Bob, tu connais, je sais plus, les bombes américaines, mais ils n'ont pas le contrôle ultime. Nous, depuis De Gaulle, hein, on a refusé ce modèle, c'est mort, on n'en veut pas. C'est dommage que tu sois parti, j'allais te donner la parole. Et donc, il faut un commandement nucléaire. Il n'y aura rien pour ça. Il n'y a personne qui va cher notre droit. Ok? Voilà, c'est non. C'est non d'un point de vue de la doctrine, d'un point de vue du droit constitué, d'un point de vue de l'OTAN pour la France, et même d'un point de vue du droit international avec le TNP, le traité de non-prolifération nucléaire. Donc tout ça, déjà, rassurez-vous, il n'y aura rien. Ça, c'est la meilleure. Parce qu'il peut faire beaucoup de choses, mais il va quand même pas aller jusque-là. Oui, quoi?
J'aurais juste dire un truc, et puis après, je vais vous laisser, je ne vais pas rester très longtemps, excusez-moi. Moi, je suis athée, comme je l'ai toujours dit, n'oubliez pas. Pour moi, Dieu, en fait, il est déjà, en fait, redescendu sur Terre. Ça s'appelle la bombe nucléaire. Allez, il est là, Dieu, en fait. Voilà.
Ça suffit.
Et donc, du
ça
coup, suffit, ces gens-là, ils sont beaucoup là, trop intelligents pour...
Bob Lennard, stop.
Pour rentrer dans l'émotion. Bon, bah, merci.
De rien. À bientôt. Ah là là.
Mais t'es représenté aussi, hein, les bouddhistes aussi ont la bombe.
Je suis pas bouddhiste.
Bah, il y a les Indiens ont la bombe.
Oui.
D'ailleurs, ça fait peur.
Oui, non, mais d'accord, ça va. C'est pas bouddhiste, c'est animiste. Mais en attendant, le président peut pas faire ce qu'il veut. Voilà, c'est tout. Et arrêtez de croire que pour ceux qui sont à fond dans l'armée, genre ouais, je vais m'engager, je vais aller dans le terrain, hein, on a les moyens de que dalle, hein, une terrasse. Moi, j'ai pas envie qu'il y ait des patriotes ou des concitoyens français qui soient tués, et encore moins des jeunes. Hein. Voilà. Alors,
c'est les jeunes qui font la guerre, les vieux ils la font pas. Sur Twitter, beaucoup te disent j'irai à la guerre. On n'est pas la Volkssturm, on n'est pas l'armée allemande en 45.
Ne me parle pas des quinquas de Twitter qui refont le monde de leur canapé, comme on adore tous le dire, bien qu'il y en ait qui essayent de faire des choses. Mais oui, nous sommes sacrifiés pour les boomers, on le sait, sur plein de points. Que je n'aurais pas eu l'occasion de développer ce soir, car la discussion a été pleine, mais c'est ça aussi la beauté des spaces, c'est aussi bien de discuter les uns avec les autres. Alors, je vais passer la parole à Mauben et après à Arwin. Bonsoir Mauben.
Bonsoir à toutes et à tous. Super sujet de discussion. Moi, j'avais juste une question, enfin, par rapport à ce que disait tout à l'heure Guy Stéphane, quand il disait que c'est toujours une histoire d'argent. Est-ce que vous pensez pas, et vous aussi Glilou, est-ce que vous pensez pas que il y a plutôt une énorme guerre des monnaies qui est en train de se jouer en Europe, et notamment, je parle plus précisément de la suprématie du dollar, parce que Trump, je crois, avant son investiture, avait fait une déclaration surprenante dans la mesure, enfin surprenante, une déclaration qui protège justement les intérêts nationaux les intérêts justement des États-Unis et donc du dollar, lorsqu'il avait déclaré qu'il imposerait des droits de douane monstrueux aux pays membres des BRICS. Et je voudrais savoir votre avis, est-ce que cette guerre en Ukraine, justement, c'est pas une guerre qui vise à déstabiliser la Russie et ses fournitures de matières premières en Europe, et donc de remplacer ces fournitures de matières premières par des produits américains, et donc à de facto à soutenir le dollar américain. Voilà. Je pense que je voulais avoir votre avis là-dessus, parce que c'est vrai que ce qui est en train de se jouer en Ukraine, comme tu l'as dit Lilou, il y a beaucoup de choses comme les terres rares, mais voilà, on va pas aller faire la guerre pour quelques intérêts financiers, ça serait vraiment triste d'en arriver là, quoi. Merci beaucoup. Ma parole.
Merci à toi. Alors concrètement, moi je suis déjà loin, hein. Je suis dans la monnaie numérique, hein. Je crois pas du tout à la fameuse guéguerre dollar, pour moi, oui, en effet, le dollar, bon, pour l'instant, il est dominant, hein. C'est plus de 80% des transactions de change déjà, donc déjà, c'est mort. Toutes les matières premières, pétrole, or, gaz, c'est coté en dollars. Le SWIFT, c'est majoritairement du dollar. Les sanctions financières, elles sont ultra puissantes. En gros, celui qui contrôle le dollar, il contrôle en effet une grande partie des flux financiers mondiaux. Mais, il y a une bataille entre ce qu'on appelle la dédollarisation et le bloc BRICS, d'accord ? N'oubliez pas, Chine, Russie, Iran, Brésil, Afrique du Sud. Eux, ce qu'ils veulent, c'est buy le dollar. On se casse. Donc pour ça, ils font des alternatives à SWIFT. Ils ont des accords bilatéraux, de nouveau, fin du multilatéralisme, en monnaie locale. Et il va peut-être y avoir une monnaie BRICS. Donc là, c'est pour ça que moi, je parle du yuan, qui est utilisé pour acheter le pétrole en Chine, notamment avec la Russie et les pays du Golfe. Et là, on commence à fragiliser le pétrodollar. Derrière arrive le pari stratégique, mais qui, à mon sens, va tout défoncer, du yuan numérique. Et quand j'entends l'Europe, ça y est, l'euro numérique et tout, l'euro numérique, ils y pensaient déjà en 2020 quand a été lancé le yuan numérique, mais c'était trop tôt en fait, on n'était pas prêt dans nos cerveaux à tout accepter encore. Et en fait, la destination a changé. Les personnes ont l'impression que c'est pour les contrôler, pour voir tous leurs achats. On s'en fout en fait, c'est pas ça. De toute façon, la démat, elle arrive. Nous sommes des pixels, nous sommes des algorithmes. Et notre comportement social, il est exprimé notamment sur les réseaux sociaux. Donc, si vous voulez, avec l'IA et la blockchain, ce qu'on arrive là, c'est qu'on arrive avec cette espèce de monstre qu'est le yuan numérique, qui vraiment, la Chine a une avance claire, hein, sur les monnaies numériques de banque centrale. C'est pour ça que l'Europe a dit, oula, vite, nous aussi finalement on va le faire. Eux, ils le testent depuis 2020, et ce qu'ils veulent, c'est remplacer, oui, le cash et avoir de la traçabilité sur les paiements, mais surtout pour les transactions transfrontalières qu'ils utilisent déjà avec la Russie, le Brésil et les Émirats. Mais bon, pour l'instant, ils sont loin, parce que pour l'instant, c'est 3% hein, des échanges, des transactions mondiales. Et aussi, c'est pas librement convertible. Et le système financier chinois est contrôlé par l'État un peu trop. Donc finalement, c'est une puissance régionale, mais pas encore globale. Mais ça va le devenir à cause de l'intelligence artificielle. Et c'est pour ça que vous avez la blockchain. J'ai fait un space là-dessus, je vous le retweeterai. C'est pour ça que vous avez cette course comme ça frénétique à l'intelligence artificielle et tout, parce qu'en fait, ils veulent contrôler les flux financiers, en fait, puisque maintenant, vous avez des IA qui vont remplacer les conseillers bancaires, les transactions bancaires. Voilà, l'IA, c'est du neurone humain mis dans une machine pour faire en sorte qu'elle fonctionne. Et là, en plus, ils commencent, vous savez, c'est comme la boîte de Pandore, ils l'ouvrent et ça nous explose à la tête. On commence à avoir des choses qui fonctionnent elles-mêmes, entre elles-mêmes. On vous le dit pas, hein, mais... c'est là, le monstre est là. Moi, j'ai pas peur de l'IA parce que j'adore et je m'en sers. Mais bon, on y est, on arrive. Donc, je te répondrai que oui, pour l'instant, c'est love le dollar, mais il est pas bête. Il a bien vu que c'était en train de shifter. Et que du coup, valait mieux commencer à se préparer. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il s'est lancé aussi sur la blockchain et le bitcoin. et je pense que ça va aller dans ce sens-là, et je pense que le dollar va être fortement challengé par les monnaies numériques, et notamment celle des BRICS. Voilà, voilà. Alors,
merci pour ma réponse, en tout cas.
Mais je t'en prie, avec plaisir, avec plaisir. La semaine prochaine, il y a de nouveau, enfin, je participe de nouveau au Space de démocratie directe pour la suite, et on parlera de la monnaie numérique. Donc, je vous encourage à venir, parce que je parlerai aussi de comment la blockchain va très certainement révolutionner le système judiciaire. Voilà. L'IA, l'IA, l'IA. Alors, je vais donner la parole rapidement à Stéphane, puis à Ruin, et peut-être Jess, s'il a un mot à nous dire, parce qu'il est monté. Vas-y, Stéphane.
Oui, merci. Non, c'est juste parce que moi, Ben m'avait fait référence également pour la réponse. Donc, pour ceux qui, dans l'espèce, ne sauraient pas ce que sont les BRICS, ce sont les initiales de Brésil, Russie, Inde, Chine, et je crois que c'était l'Afrique du Sud. En fait, eux, ils ont mis un système en place qui est en fait étalonné sur les valeurs précieuses, donc l'or, l'argent, etc. Tandis que le dollar, c'est quelque chose qui la Fed s'amuse à imprimer à tire-larigot. Je suis certain que Trump, effectivement, essaie de garder l'hégémonie du dollar, sinon ce serait la fin des États-Unis. Il a du pétrole, il a déclaré dernièrement qu'il avait énormément de pétrole sous le sol américain. Donc je ne sais pas si les Chinois avec le yuan pourront s'amuser à faire vraiment concurrence, on verra. Et je vais très très vite. Hein. Et par rapport à l'IA, franchement, je te vois, Lilou, moi ça me fait peur. Ça me ferait même plus peur qu'une guerre nucléaire. Après, j'ai grandi, bon, je suis né en 70, j'ai grandi avec un film dans les années 1980-1982 qui s'appelait Game Over, où tu avais un ordinateur qui prenait en fait toutes les décisions par rapport à des algorithmes tout à fait logiques, etc. Il avait fait, d'ailleurs pour le faire sauter, ils avaient fait le jeu du Oxo, où ils voyaient qu'en fait personne ne pouvait gagner dans une guerre nucléaire. Après, j'ai aussi la référence de Terminator avec Schwarzenegger, où effectivement, tu as l'intelligence artificielle qui a pris le dessus et qui a commencé à décider toute seule ce qu'elle allait faire, et détruire les peuples humains était la meilleure chose à faire. Je ne sais pas si vous avez vu, il y a une expérience il n'y a pas longtemps qui a été de mettre deux ordinateurs face à face, donc deux intelligences artificielles à discuter. Au début, ça discutait en langage humain, et après, ça commençait à discuter comme ça. Et ils se parlaient comme ça en fait. Donc ils ont développé un autre langage qui allait plus vite et qui comprenait entre eux. C'était effrayant. C'était vraiment effrayant. Donc perso, la guerre ne me fait pas peur. J'y crois pas trop. La guerre nucléaire, j'y crois pas trop. Par contre, l'IA, j'en ai très peur.
Bah, merci. Je dirais qu'il faut pas avoir très peur parce que c'est encore contrôlé par l'humain. Mais le problème, on en parlait hier dans le space, il est sur mon feed, je vous invite à le réécouter, c'est plutôt qu'on n'a pas d'arsenal juridique pour protéger les citoyens, on ne peut pas intervenir contre ce que veulent faire les politiques avec l'IA. Donc ça, plus ça, plus ça, ça fait beaucoup de choses. Et aussi, pour ceux qui suivent un peu la tech, c'est en train de partir, enfin c'est déjà parti très très loin en fait. Nous, on a la ramasse, mais totale, par rapport à ce qui est possible d'être fait. Et ça offre des super solutions en entreprise, des super solutions pour tout ce qui est paralégal dans ma sphère. Ça peut être amené à remplacer grandement l'humain, mais ça reste des machines. Et en effet, il y a des systèmes qui sont très complexes, notamment la super intelligence. Et bon, en gros, ça nous dépasse. Mais il va y avoir, je pense, des comités éthiques pour un peu réguler tout ça. Et il y avait des experts hier, des ingénieurs et tout, qui expliquaient, qui travaillent donc avec l'intelligence artificielle, qui eux, leur plus grande crainte numéro un, c'est les cyberattaques et la cybersécurité. Et c'est intéressant d'aller réécouter le space, parce que quand on les écoute, en fait, ces gens qui travaillent finalement, parce que moi, je fais du consulting en IA, mais pour proposer d'abord, je fais de l'IA artistique. Lilou est une intelligence artificielle, mais qui n'est pas poussé trop loin, puisqu'en fait, dans l'idée, Lilou reste une personne humaine, moi, mais dans le physique, c'est une intelligence artificielle. J'ai posté une vidéo il y a deux jours, vous voyez un peu comment on peut faire du morphing et recréer les émotions, c'est très pointu, ça devient de plus en plus pointu. Globalement, c'est surtout dans ma sphère et ma niche juridique que c'est intéressant, mais j'accompagne aussi des gens qui veulent utiliser l'intelligence artificielle sur les réseaux sociaux pour exister sur les réseaux sociaux, pour toutes les références algorithmiques que ça peut offrir. Ça peut aller très vite, très loin. On a aujourd'hui des capacités, notamment du point de vue du digital, donc de l'existence sur les réseaux sociaux, des travaux qu'on pouvait effectuer, voire effectuer entre 4 et 5 personnes avec une, on va dire, une fenêtre de travail, de création de contenu sur 2 semaines, voire sur 1 mois, bah, vous pouvez faire ça en 1 jour. Et le plus en plus là-dedans, c'est que maintenant, vous pouvez quasiment vous passer, si vous savez le béaba de ce que concerne l'intelligence artificielle dans ce domaine-là et que vous êtes formé, vous pouvez vous passer des community managers, vous pouvez vous passer du photographe, vous pouvez vous passer de plein de choses qui appartiennent aux créateurs de contenu, même pour coder des sites internet. Enfin, si vous vous formez, oui, ça va très très loin, très fort, très vite. Et j'espère qu'il y aura des comités d'éthique, mais comme je l'ai dit hier dans le space, vu que actuellement, il n'y a pas de volonté politique de légiférer et que eux-mêmes, finalement, se servent aussi de l'intelligence artificielle pour étudier les comportements d'un point de vue politique et aller dans le sens communicationnel qui pourrait les favoriser. Oui, c'est un peu compliqué. Mais il y a des aspects d'intelligence artificielle, comme par exemple sur la médecine, qui sont merveilleux, merveilleux. Donc, nous verrons. Moi, j'aime beaucoup, donc nous verrons. Merci Stéphane, je vais laisser parler Arwin, Jess, je vais regarder ce profil. Arwin, vas-y, je t'écoute.
Oui, j'aurais voulu parler à Bob Denard, mais c'est pas grave, je me posais la question de qu'est-ce qui est défini comme les intérêts vitaux de la nation qui pourrait justifier l'utilisation de l'arme nucléaire, et surtout la stratégie de dissuasion nucléaire, elle repose sur la crédibilité, c'est-à-dire que le type d'en face est convaincu que vous allez répliquer avec l'arme nucléaire. Si vous l'attaquez, et pourquoi il est convaincu que vous le ferez, parce que vous l'utilisez en ultime recours pour la défense de la nation. Donc la crédibilité de l'usage de l'arme nucléaire pour autrui, pour moi, ça me semble totalement opposé à la logique sur laquelle tout ce jeu délicat repose. C'est pour ça que j'aurais bien voulu avoir le point de vue de Bob, mais une autre fois peut-être.
Bah, il reviendra, mais même, enfin, mais Bob, il aime la guerre en fait. Donc, non, mais c'est vrai, c'est.
Je sais pas si tu connais une vieille référence de la BD française. C'est un peu, tu sais, dans la veine Harakiri, Choron, tout ça, Razer. C'était une série de BD qui s'appelle Les Deux Latunes. Et alors c'est le fils d'un milliardaire. Il l'envoie à l'école avec les gueux, avec les pauvres, pour qu'il voit comment c'est. Et la maîtresse demande à tous les gamins d'écrire un poème. Et le gamin du milliardaire de la thune, il écrit un poème qui s'intitule « J'aime la guerre ». La guerre fertilise les sols, elle fait pousser les blés, enfin tout ça. Enfin, t'as toute la classe et la prof qui sont traumatisées. Enfin ouais, bref, ça m'a fait penser à ça.
Après, c'est vrai que voilà, tu vois, tu l'as soulevé la question, en effet. Il y aurait des possibilités, comme ça a été fait avec plein de choses pendant les deux quinquennats, de justifier l'intérêt vital pour la France. À voir.
Mais écoute, comme il y a eu 2-3 choses intéressantes, je voudrais réagir dessus aussi. Alors, par rapport à ce que tu as dit, en fait, les BRICS, en particulier la Chine et d'autres pays, ne veulent pas en fait tant se dédollariser tant que ça, enfin en tout cas pas si rapidement, pour une simple et bonne raison, c'est que premièrement ils détiennent des quantités absolument faramineuses de US Treasury Bonds, donc s'ils se mettent à dédollariser, ils vont se retrouver avec des bonds qui valent rien, et ils peuvent pas non plus les vendre massivement et rapidement, parce que c'est comme toujours, hein, dès que tu détiens un actif sur les marchés financiers, si tu veux t'en délester rapidement, leur valeur s'effondre en conséquence, donc ça c'est une première chose. Et surtout, ils ne veulent pas, le remplacer le dollar en tant que monnaie monde, en tant que valeur de réserve, parce que ça a un certain nombre d'implications économiques, et notamment le fait que tu deviens, comme dirait Philippe Comte, une des caractéristiques de l'Empire, c'est que tu exportes tes capitaux, et que à partir, c'est notamment le cas des États-Unis, hein, ils font tourner la planche à billets, ils exportent leur inflation, il y a toute cette masse monétaire de dollars qui, si elle leur revenait dans la tronche, créerait une inflation qui ferait passer l'hyperinflation des années 30 pour peanuts. Donc en fait, quand ta monnaie est une monnaie monde, tu as cette espèce de d'épée de Damoclès qui te pend au-dessus de la tête et qui te force. Il y a un petit côté piège de Thucydide, tu vois. Ça te force en fait ensuite à lancer tout un tas de guerres pour que ces pays continuent à utiliser ta monnaie, parce que s'ils ne l'utilisent pas, tu te reprends tout sur la gueule. Donc voilà, en fait les BRICS, ils veulent effectivement plus ou moins faire baisser l'utilisation du dollar pour enlever tout l'aspect lawfare, extraterritorialité du droit américain via le dollar, mais il ne veut pas non plus le remplacer. Et comme avait dit Napoléon III, on ne remplace réellement que ce qu'on remplace. On ne détruit totalement que ce qu'on remplace réellement. C'est-à-dire que tu peux pas exister en étant simplement, en voulant être le contraire de ce que tu détestes. Il faut remplir ça avec de la substance. Et en l'occurrence, ça, ils vont pas le faire. En plus, leur projet, les BRICS, c'est quelque chose de beaucoup plus flexible, de moins informel que un bloc comme l'Union européenne ou les États-Unis en tant qu'État fédéré. Jacques Sapir parlait plutôt que chacun continue à utiliser sa monnaie, mais il crée ce qu'on appelle une unité de compte. C'est-à-dire que ça sert pas à échanger en tant que tel, mais ça sert à plutôt, on va dire, suivre les échanges. Donc on se dirigerait plutôt vers cette forme. Par contre, ce que Trump veut, c'est un dollar qui est suffisamment fort pour que l'économie américaine puisse se permettre d'acheter toutes les ressources dont elle a besoin, parce que concrètement, c'est ce que veut Trump. Hein. Trump, ce qu'il veut,
et de s'endetter aussi.
Réindustrialiser. Alors, c'est particularité, de s'endetter aussi, mais c'est la particularité de l'empire américain, c'est que c'est le premier empire qui est un empire de la dette. C'est un empire qui est gouverné par la dette. La caractéristique des anciens empires, c'est ce qu'on appelait le tribut, c'est-à-dire que les peuples conquis envoyaient des sommes d'argent, d'or, de la fourrure, de l'ambre, des esclaves vers le centre impérial. Et là, c'est un peu pareil, mais c'est le principe de base reste le même, le fond, mais la forme change. Mais est-ce que Trump, c'est un dollar suffisamment puissant pour pouvoir acquérir les ressources naturelles étrangères et réindustrialiser les États-Unis? Ils se sont rendu compte d'un truc, j'ai lu ça il y a quelques mois sur un compte Twitter très intéressant qui s'appelle @SaysSimulations. C'est un type qui vit dans les fameux flyover states, donc du cœur des États-Unis, qui vote Trump à 200%. Et ils se sont rendu compte qu'aux États-Unis, il y a une véritable perte de compétences. Par exemple, ils sont plus capables de faire des vaisseaux. Des vaisseaux de guerre ou même des gros super tankers. C'est pour ça que sûrement Lilou, tu es au courant, l'accord CGA-CGM, ils vont construire des flottes de tankers. Ils sont plus capables aux États-Unis de construire des vaisseaux, que ce soit des vaisseaux civils ou militaires. Et donc il y a toute cette opération de recréation des savoir-faire, mais aussi de l'acquisition des matières premières pour pouvoir appliquer ces savoir-faire. Et donc il faut un dollar fort et en même temps qu'il soit pas trop fort, puisque ça pénalisera les exportations américaines, même si Trump de toute façon est dans une double démarche: cannibalisation de l'économie européenne, c'est-à-dire on continue le mouvement, le fameux brain drain, on continue, alors petit brain drain, c'est un petit clin d'œil à Bob, parce que j'ai écouté son space dans la journée. Le fameux brain drain, la fuite des capitaux, pareil, qui continue d'aller vers les États-Unis, hein, ce qui n'est que la confirmation d'une vieille tendance, et qu'on le veuille ou non, qu'on vienne un marché captif des produits américains, donc qui risque de totalement cannibaliser l'économie américaine pour ressusciter l'économie américaine lourde. On se rend pas compte, mais bon, typiquement avec le coût du gaz américain de schiste qui nous vendent 3, 4, 5, 6 fois plus cher que le gaz russe, on est vraiment quelque part. Trump est encore une fois, c'est du moins empire, mais du mieux empire. Et en même temps, vous allez continuer à acheter des F-35 même si c'est de la merde, et vous allez continuer à acheter américain où il va vous arriver des bricoles, hein, comme on dit, ce qui vous arrivera si vous nous payez pas pour qu'on vous protège, même si on ne va pas vous protéger.
Bref, voilà. Et une dernière chose, puisque Lilou, tu t'intéresses beaucoup aux crypto-monnaies. Alors, elle a un petit peu ralenti ces derniers temps, mais je t'invite et j'invite tous les auditeurs à s'intéresser à une dame qui est Blythe Masters. Blythe, c'est un prénom féminin, hein, B-L-Y-T-H-E, qui est, je le rappelle, je ne sais pas si je l'avais déjà mentionné, mais c'est la dame qui a rendu la crise de 2008 des subprimes possible, parce que elle est rentrée à 17 ans en tant que stagiaire à la JP Morgan aux États-Unis, et à 40 ans elle est devenue chef de tous les produits financiers, et notamment elle a supervisé la création des fameux CDS, les Credit Default Swap. Donc, pour vous le dire, hein, très très simplement, une assurance sur l'assurance, hein, des défauts sur les produits financiers. Et donc les CDS sont supprimés grossièrement, en supprimer le risque en finance, ce qui a fait qu'on a eu des situations où des gens ont pu s'endetter alors qu'ils n'auraient pas dû pouvoir le faire. Je vous le résume, hein, très très succinctement. Mais donc cette dame, Blythe Masters, a aussi, alors après la crise de subprimes, elle s'est fait toute toute petite, elle est allée en Suisse, elle a fait comme Nono Le Maire, et en Suisse elle a participé de manière très importante au développement de la blockchain. Donc voilà, une dame à suivre, Blythe Masters. C'est tout pour moi.
Je t'ai laissé faire ton petit tunnel, c'était fort intéressant. Merci beaucoup. En cette fin space, en effet, moi ça s'appelle Blit, ça me fait penser à Blat, mais c'est vrai que c'est intéressant ce qu'elle fait sur la blockchain. Bon. On va dire, on arrive à la fin. Bon, moi, je suis loin. Je vous ai dit, c'est 3% le yuan. Maintenant, on est sur 80, 88 pour le dollar. Bien entendu, ça va pas arriver demain. Mais, attention à l'IA, attention au blockchain, attention à tout ça. Ça peut aller plus vite que l'on ne croit. Pour ceux qui me demandent encore la parole, je suis désolée. Je ne prends plus d'intervenants. Je suis déjà hors délai de presque 3/4 d'heure. Et je vais donner encore la parole à... Alors, votre nom, c'est Aimable en général. Qu'est-ce que vous adorez faire des petites contre-pétitions?
Lilo, excuse-moi 10 secondes. Oui. Juste une chose. Merci. Par rapport à l'IA. Je t'ai dit ce que je t'ai dit sur ma boîte par rapport au télétravail. Une chose, ouais. Cette semaine-là, on va commencer à mettre... on va lancer la mise en place de GitHub Copilot. D'ailleurs, on avait déjà Copilot pour toutes les autres fonctions. Et là, ça va s'attaquer au développement et à la programmation.
Ben ouais.
Donc là, on fait tous les tests et tout ça, et dans 6 mois, ça devrait être en place. Donc, les programmeurs vont en profiter.
Ah bah ça, c'est sûr que là, il y a des portes ouvertes et des opportunités. De toute façon, on marche vers ça, vers la fin du télétravail, vers l'automatisation et vers les coupes dans les masses salariales grâce à l'intelligence artificielle. Mais bon, on va pas noircir le tableau. Déjà, on va essayer de conserver nos droits sociaux, notre épargne, nos livrets, nos assurances vie. Tout autre sujet que je n'aurais pas abordé ce soir, car c'était une grande et belle discussion. Ah, ben il est parti. Ah bon, non, si. Ça va.
Non, je suis là. Hein. J'attends sagement.
Je vois ça. Vous êtes aimable en général. Alors allez-y, exprimez-vous. Vous écoutez.
En général, ouais, exactement. Oui, bonsoir à tous. Merci pour ce space. Moi, j'aurais bien voulu avoir une petite discussion. J'espère. Donc ça durera pas trop longtemps parce que je sens que tu es fatigué. Le thème en fait du développement de l'IA.
Je t'explique, je ne suis pas fatigué, mais j'ai un homme dans ma vie qui m'a dit minuit 30, dernier carat, et là je suis déjà hors délai. Voilà.
Ah ouais, merde. Ah bah c'est gentil de me donner deux petites minutes. Et puis...
Oui, toujours. Ça va avec mon personnage, voilà. Mais on t'écoute, hein.
Ouais, cool. J'avais une petite question et puis une interrogation. Je vais commencer avec l'interrogation. C'était un peu est-ce que le jour où l'IA dépasse nos capacités, est capable de s'auto-évaluer, peut-être est capable de développer une conscience propre, ce qui est pas complètement farfelu, hein. Est-ce que c'est pas quand même inévitable qu'on arrive à un scénario du type Matrix, du type... Je sais pas si tu as vu le film Animatrix, il est tellement bien fait. Dans ce film, en fait, ils expliquent comment on arrive au point où on est contrôlé par la matrice
Et en fait, c'est parce que ben l'IA prend le dessus sur nous. Je vais pas trop spoiler pour ceux qui l'ont pas vu, mais je me dis, est-ce que c'est pas genre inévitable, connaissant l'homme, connaissant ce qu'il a été avant, connaissant le fait que bon ben dans les luttes de pouvoir, on va devoir créer l'IA la plus performante et on est plus dans, en tout cas pour l'instant, en train de dans une course pour avoir la meilleure IA et on n'a pas le temps. En fait, il y a des gens qui demandent de mettre une pause, de faire un moratoire, et personne n'écoute ces gens. Personne les écoute et tout le monde va de l'avant et tout le monde avance le plus rapidement qu'il peut. Donc, dans ces conditions-là, est-ce que c'est pas inévitable en fait que l'IA prenne le dessus? Voilà, ça c'est l'interrogation. Puis après, j'avais une toute petite question. C'était moi, je suis un peu photographe, et t'as dit oui, mais les IA remplacent les photographes. Mais attends, pour qu'ils aillent sur un terrain, pour qu'ils puissent évaluer un cadre, une photo, un drone qui fait des photos tout seul, je pense qu'on a encore du temps, non? Rassure-moi. Voilà.
Alors, bon, il y a toujours l'humain derrière l'IA, donc pour l'instant, en fait, il faut raisonner dans le sens de dire que c'est l'humain qui contrôle l'IA, c'est pas l'IA qui contrôle l'humain. Maintenant, est-ce que l'IA aurait les capacités? Oui, je pense. Alors, je dis pas de conscience parce que c'est très abstrait, mais il y a eu des tests, il y a eu des choses qui ont été faites. On attend toujours les conclusions, mais je pense qu'il y a des choses qui nous diront pas parce que c'est beaucoup trop effrayant, en fait. Et je pense que notre cerveau n'arriverait pas à le conscientiser lui-même. Mais quand on sait que l'architecture de base de l'intelligence artificielle, c'est les neurones, on peut se poser des questions. Et quand on pense aussi, en fait, en termes... Enfin, je sais pas si vous êtes déjà intéressé à l'anesthésie générale. Moi, c'est un truc qui me fascine. Enfin, pas que ça, mais on va dire les chirurgies, l'anesthésie. Je me dis, il y a un type... Il y a une nana qui est capable, avec ses études, de savoir comment m'endormir de façon à, même si on m'ouvre en deux, je sens rien. Et ça m'a absolument passionnée. Et j'ai découvert des choses sur la conscience et les paliers de la conscience qui sont assez dingues. Notamment le fait que, par exemple, nous, on ne pratique que 10 paliers de notre conscience. Je vous invite à réfléchir là-dessus. Et je me suis intéressée à ça. Un, parce que j'avais cette passion pour la médecine, et on va dire la chirurgie, et de deux, parce que je suis complètement fascinée par les anesthésistes et leur capacité à nous maintenir entre la vie et la mort. Et donc, d'un point de vue de l'intelligence artificielle, il y aurait peut-être cette notion de palier de conscience à atteindre qui serait possible. Après, dans quelle mesure ça va nous intéresser, je ne sais pas. Moi, je pense que le commun des mortels va s'intéresser surtout au fait de savoir si son job va être remplacé peut-être pas par un robot, mais simplement par un système en fait automatique qui va tout gérer. Je dirais qu'il y aura toujours quand même un point de vue éthique qui viendra, et ça dépendra du politique. Ils pourront pas tout remplacer par l'intelligence artificielle, c'est faux. Mais il y a un degré de dangerosité, oui, sur l'intelligence artificielle, et il y a des choses en ce moment qui sont en train d'être développées parce qu'il y a une course à être le meilleur, qui peuvent être potentiellement dangereuses. Et hier, notamment, il y avait un ingénieur qui expliquait, dans le space dont je vous ai parlé, qu'il y a des intelligences artificielles qui sont capables notamment de manipuler des virus, et que après la cybersécurité, leur deuxième peur, c'était un risque de pandémie, parce qu'ils avaient peur que l'intelligence artificielle fabrique des virus. Voilà. Alors, ne craignez pas, hein, mais juste dans l'idée de ce qui est capable de faire cette intelligence artificielle. Après, il y a eu des dérives, il y a eu des intelligences artificielles qui ont fini par conscientiser des choses, c'est-à-dire faire leur propre raisonnement. Et on ne sait pas encore jusqu'où chacun dans son coin va, comme OpenAI par exemple, ceux qui font ChatGPT. Et alors les Chinois, j'en parle même pas, hein, vous imaginez hein, que c'est encore plus opaque. Donc il n'y a pas un danger, mais il y a une réalité, je dirais. Et ensuite, j'ai pas vu le film Animatrix, qui a l'air intéressant d'après ce que tu dis, donc j'irai voir. Merci pour la reco. Maintenant, est-ce qu'on est dans la matrice, tout ça, moi, enfin, j'y crois sans y croire, en fait, parce que bon, il y a un côté très cinématographique, et qui est le texte d'ailleurs, tiens, et avec cette, on va dire, cette espèce de stéréotypie du, bah oui, stéréotypie, vous savez, de l'éveillé contre celui qui dort, Enfin, moi, je pense qu'il y a plein de personnes qui sont très conscientes de ce qui se passe, qui ont juste pas envie qu'on les emmerde sur cette tranche de vie, en fait. C'est pas forcément des moutons, c'est juste qu'ils sentent pas l'âme de révolutionnaire. Ils ont envie d'être avec leur famille, de vivre leur vie. Pensez aussi aux gens qui sont malades, de cancer, de choses gravissimes, ceux qui ont des effets secondaires, enfin, des vaccins, du Covid. Enfin, il y a plein de choses qui font qu'il y a des gens qui ont pas envie qu'on les emmerde, qui veulent rien savoir du politique, qui vont plus voter, qui se contentent de faire leur 3-8 ou leur job qui les fascine pas forcément et qui essayent de vivre sur les 80 ans qu'on a sur cette planète sans se prendre la tête, en fait. Je vous dis ça, j'ai vu une vidéo vraiment d'une femme très intéressante sur TikTok qui a répondu à Emmanuel Macron en lui disant mais franchement, on n'ira pas faire ta guerre parce que tout simplement, en fait, nous, ça, tu nous intéresses pas, en fait. J'ai trouvé ça très vrai, très juste. Elle disait que ce qu'elle voulait, c'était se lever le matin, prendre son café, promener son chien, faire ce qu'elle doit faire au travail sans grande conviction, retrouver ses proches, partir en vacances. Et moi, ces gens-là, je les blâme pas, en fait. Ils sont pas dans le combat, ils sont pas dans, ils ont le droit, en fait. Donc, je pense que on est dans la matrice, oui, entre guillemets, mais il y a plein de
gens. Non, mais, voilà. Je peux faire juste une petite interjection. En fait, je vais essayer de vraiment de pas trop spoiler le film, mais c'est important, c'est une distinction. C'est que dans le plot du film, c'est on n'a pas toujours été. Et il y a un truc qui fait que les machines sont obligées de prendre le dessus, et c'est elles qui créent la matrice d'illusion pour vivre en symbiose avec nous. Donc je veux pas trop, mais je te garantis, et ça rentre philosophiquement, ça explique beaucoup de choses. Enfin, ce que tu viens d'expliquer explique une des raisons pourquoi ils ont créé la matrice. Ce que tu viens même d'expliquer. Ben, donc, je t'encourage vraiment à aller le voir.
Mais j'irai le voir, franchement j'irai le voir. Après, voilà, je pense que par l'avenir qui arrive, qui nous arrive dessus, hein, qui va pas être facile, il va falloir se dire qu'on va reconstruire, on va faire des choses, et qu'il y a des gens qui veulent juste pas qu'on leur prenne la tête, en fait. Et c'est peut-être qu'ils sont dans la matrice, peut-être que nous aussi. Moi, je dis toujours prenez la révolution douce et le fait d'appartenir au système pour tenter de le faire changer de l'intérieur, d'épargner les gens, d'en sauver certains. On n'arrive jamais à sauver tout le monde quand on veut aider et sauver, mais se préserver et essayer de préserver le maximum de personnes. Parce que oui, la réalité, c'est que nous, avec nos petits bras, et d'ailleurs, il y a beaucoup de gens qui ont fait les révolutionnaires en étant peut-être un peu mal conseillés par les temps qui courent. Parce que ce qui était à un moment, on va dire, les marches, les manifestations, ça pouvait marcher. Maintenant, c'est... Moi, j'admire les gens qui vont en manif, hein, je vous le dis. Hein. Parce que d'abord, ils exercent leurs droits, nos droits, ils ont raison, parce que sinon, finalement, ça va tendre à disparaître. Mais surtout, ça représente un réel danger physique et moral, hein, aujourd'hui. Et du coup, je me dis, on est peut-être dans un système qui essaye de nous broyer, mais petit à petit, on peut quand même essayer, avec la volonté personnelle aussi, de s'en sortir et de construire vers le meilleur. Mais je crois pas aux grands éclats, je crois pas aux grands, finalement, aux grandes batailles, même dans Matrix ou dans d'autres films, qui ont des empreintes de ce qu'on vit actuellement. Je pense vraiment qu'il faut laisser là maintenant tout s'écrouler et qu'après on reconstruira mieux, en conscience. Voilà. Mais pour moi, il n'y a pas de gueux, il n'y a pas d'endormi, il n'y a pas d'éveillé. Il y a peut-être les élites, c'est vrai, une certaine forme d'oligarchie. Ça, je veux bien l'entendre. Mais pour le reste, là, il faut juste essayer de garder la tête froide et de vous dire que oui, par rapport à la captation du pouvoir et à l'instrumentalisation du droit, il va se passer des choses qui vont vous déplaire. Et ça sera dur. Et à partir de là, il faut vous préparer. Finalement, cette espèce de sac, c'est votre aussi sac mental. Va falloir que vous commenciez à vous préparer. Alors, faut pas mettre des... Alors, j'ai vu... Non, mais franchement, mes BFM, les myrtilles, les sacs de riz, mais vraiment, la propagande, n'importe quoi. Par contre, oui, soyez en ordre, discutez avec vos banquiers aussi, je l'ai dit la semaine dernière, parce que les textes, ils arrivent là, dans la semaine. Donc, pareil, on n'entend pas parler parce qu'on est focalisé sur autre chose, mais c'est cette semaine que va arriver ce texte sur la là, on est le 22, ouais, c'est cette semaine, sur la captation des épargnes. Donc je et parfois, vous savez, il y a des personnes sur ce réseau qui ont parlé de ça il y a 2-3 ans. Et c'est ce qui se passe. Donc essayez de vous entendre les uns les autres et de vous écouter. Et si vous faites des choses de manière à travailler ensemble ou quoi, rencontrez-vous dans la vraie vie et n'étalez pas trop ce que vous allez faire sur les réseaux sociaux. Et faites attention aussi à la désobéissance civile, ça sert strictement à rien. Ce qu'il faut, c'est respecter la loi et faire attention à vous. Voilà. Ce sera mes derniers mots pour ce space. Je n'ai pas pu parler de mon plan. Je voulais vous parler de la mobilisation générale. J'en ferai un thread, je pense. Et parce que d'ici la semaine prochaine, il y aura encore des nouveautés. Je pense que la semaine prochaine, on va se concentrer vraiment sur l'épargne, l'assurance vie et bientôt la propriété privée. Puisque finalement, le Français qui veut vivre sa vie, on va aller chercher chez lui. Et on va lui prendre, on va lui dire, maintenant tu donnes. Comme ça, tu finances l'armée de cet État fédéral qui n'existe pas. Voilà. Je vous remercie beaucoup pour le space, je vous remercie d'être venu et je vous dis à la semaine prochaine, prenez soin de vous. Et bonne nuit, bien sûr.